Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 29 juin 2005 de 18 à 21h, en différé jeudi 30, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 021 82.
Amis de la Résistance, bonsoir. Vous étiez encore en train de bavasser, vous.
Toujours, je bavasse, c'est tout ce que je sais faire.
Mais vraiment, c'est une désolation. Ce soir, programme, comment dit-on, cool.
L'acte.
Voilà, light. Programme light. Avec Michel de Gégère, journaliste. Bonsoir, Michel de Gégère.
Bonsoir, Serge.
Et puis surtout... je sais pas, vous êtes quoi, vice-président, président, secrétaire général de...
Non, président, je suis pas encore arrivé, malgré une campagne acharnée, mais je suis vice-président.
Ah, voilà.
Ah oui, je monte petit à petit.
Il se passe
éliminer vos... Pas éliminer vos concurrents. Donc, vice-président de Renaissance catholique, qui vient nous parler de l'université d'été de Renaissance catholique. Alors, je ne veux pas vous faire de cinéma. En réalité, ça, le sujet ne m'intéresse que parce que je suis un des orateurs de cette université d'été.
Mais c'est le cas de beaucoup des gens qui viennent à l'université, qui ne viennent que parce que vous êtes là. Donc, vous êtes très représentatif.
C'est très bien.
Gabriel,
bonsoir mon père.
Bonsoir.
Comment allez-vous?
Ah, mais très très bien.
Ah, je vous trouve beau, oui, oui, oui. Ça fait longtemps que je vous le dis, mais.
Oui, mais.
Je vous ai tellement vu.
Et alors, ce soir, les gens disent que va dire Serge de Bekech du Péraguache au niveau de sa santé. Et alors, c'est incroyable, parce qu'il y a tellement de gens qui disent, vrai, on vous écoute simplement pour écouter l'opinion de Serge de Bekech.
C'est votre bulletin de santé. Vous en êtes, mon père, aussi, enfin, de l'université d'été, non?
Non. Mais c'est-à-dire que je rêve d'y être, mais ça tombe sur les camps. Et j'y suis allé plusieurs fois, parce que c'est à proximité des camps. Donc j'ai fait une sorte de fugue pour aller célébrer la messe, mais vraiment ça me manque beaucoup d'être parce que vraiment en France c'est tellement incroyable que ça puisse exister aujourd'hui.
C'est
incroyable, c'est fantastique.
Alors ensuite, normalement on attend Pierre Descaves, j'espère qu'il viendra, qu'il nous parlera de son association France Résistance. Et puis ensuite on aura, alors je sais pas du tout ce que ça va donner, j'ai pris un risque. Vous allez me dire, Michel, ce que vous en pensez.
Plus.
J'ai invité Jacques Arnoul, Jean-Baptiste Chauvel et Philippe Dounaïef.
Oh, ça peut pas donner un mauvais résultat.
Non, c'est pas. Ça peut être pire que tout, ou très
cette
bien.
Cette chaleur.
Qui sont
en
les
fin d'après-midi.
Vous les connaissez?
Ben, c'est-à-dire oui.
Ben oui, c'est le cœur montjoie. Oui. Qui vont venir nous expliquer. Je crois.
Ils
j'ai
pas
cru
venir
comprendre vaguement que. J'espère que non. Il est question d'un. d'un disque. J'espère qu'ils ne le chanteront pas. J'espère qu'ils auront apporté le disque et qu'on pourra échapper au pire. Mais c'est, ça fait
ils doivent être contents s'ils sont en voiture et qu'ils vous écoutent.
Monsieur le curé. Ah,
Jacques Arnoux, oui. Dounaïef, oui. Oui, je connais tous. Et Chomaï aussi.
Ah bon, oui, c'est ça. Et, bien ce que vous connaissez.
Et je vais même marcher avec eux sûrement cet été pour aller sur le puits au mois d'août. Avec
oui,
leur chapitre.
Ils ont fait un chant d'ailleurs qui s'appelle « Car le père marche avec nous ». Bien, vous voyez donc, il y a assez peu de risques de dire du mal, hein, pour une fois.
Là, vous avez,
mais je vais quand même, alors, avant tout.
On est quand même de les arranger pas mal, là. En fait, de pas dire de mal.
J'ai oublié de présenter le marquis.
Non, c'est pas ça. Donc, je suis pas de vous faire des reproches, mais on dira pas de mal, mais c'est fait en ce qui concerne le cœur mangeois cette année, déjà. Pourvu qu'il chante pas.
Il est malheureux.
Le cœur mangeois, j'ai quand même le droit d'en dire ce que je veux, parce que personne au monde n'a autant entendu, leur disque que moi. Personne.
Et on voit le résultat.
Non, ça rend pas complètement idiot, mais on peut pas dire que ça concourt beaucoup au développement de l'intelligence. Oh, cela dit, c'est moins grave que d'écouter.
Pitié, pitié. Halte au feu.
Non, mais c'est moins grave que d'écouter, je sais pas comment s'appellent les trucs des jeunes maintenant.
Michel,
vous qui avez des enfants jeunes, mais je suis sûr qu'ils n'écoutent pas.
Je suis pas très très au courant de ce qu'ils écoutent. C'est très mal.
Oui, vous devriez.
De temps en temps, je coupe quelques radios, etc., mais sans demander toute la documentation sur ce qu'ils écoutent.
Et vous, quels sont les disques que vous saisissez le plus en ce moment, les CD à Riomont?
Il y a pas. Non, en ce moment, on nous vole. Les garçons nous volent nos portables, mais
c'est pour téléphoner à leur maîtresse, probablement.
Non.
Non, leur maîtresse d'école.
Oui, bah oui, j'ai pensé à mal, vous voyez.
Ah oui, à force de fréquenter les jeunes, vous finissez. Non, mais ils n'écoutent rien.
Ah ben nous, c'est
même pas leur professeur.
Les chants scouts, les chants spahis, les chants de la douce France, les chants de notre tendre en France, les chants des provinces françaises, les chants militaires.
Est-ce qu'ils écoutent Europe numéro 1?
Ah non, absolument pas, non.
Ah, ils ont tort, parce que vous savez qu'il y a une émission sur Europe 1 ou sur France 3, ça s'appelle France 3, c'est ça?
Oui.
Qui s'appelle On a tous essayé. C'est un garçon pour qui j'ai une grande sympathie, parce que, une espèce de rigueur morale, comme ça. Il s'appelle Laurent Ruquier, vous connaissez?
Ah, je le connais très bien.
Très bien, très bien. Bon.
Ça vous étonne pas, bien sûr.
Non, je pose la question.
C'est un type très bien, et je trouve que c'est un très bon auteur de
texte. Eh ben c'est bien, d'accord. Bon, alors comme ça, voilà. Vous avez aussi entendu, Monsieur Ruquier, on vient de dire du bien de vous, alors c'est pas la peine de nous faire un procès. Maintenant, je vais dire ce que j'ai à dire.
Oui, le terrain.
Monsieur Ruquier, il fait une émission qui s'appelle On a tout essayé. Alors, et ensuite, il raconte ce qu'il a essayé et les résultats.
Ah non, il raconte pas tout.
Beaucoup de choses. Mais en l'occurrence, il y a une chose qu'il n'a pas du tout racontée. C'est la suite d'un essai qu'il avait fait. Il avait invité un cuisinier, un jeune et brillant cuisinier, qui s'appelle Marc Héberlin, grand chef cuisinier de France. Oui, grand chef cuisinier de France et chef de l'auberge de Lille à Ilhausen, à 60 km de Strasbourg, sur la route de Colmar, héritier d'une famille de cuisiniers alsaciens qui remonte à son arrière-grand-père. Enfin, j'espère que la famille remonte avant l'arrière-grand-père, parce que...
Non, c'est l'hôtellerie qui remonte à l'arrière-grand-père.
D'accord.
C'est une des meilleures auberges de France.
Eh bien, alors donc il a invité ce garçon... Enfin, ce chef, brillantissime, chérissime.
Étoilé.
Triple étoilé, trois étoiles. Et il y avait un autre garçon qui était là, qui s'appelle Patrick Gâteau. Alors Patrick Gâteau, il a présenté un livre, soutenu par Monsieur Héberlin, qui s'appelle « Je cuisine pour moi tout seul ». Joli. Un peu égoïste, mais intéressant.
C'est plus prudent.
Et puis autour de ça, ils ont organisé un concours de cuisine qui a été gagné par un détenu de Caen, qui a gagné une télévision, parce qu'il avait fait la meilleure recette cuisinée pour lui tout seul. Forcément, quand on est en tôle, c'est... Bon, tout ça est charmant, drôle, on peut après tout, pourquoi pas faire ça. C'est pas parce qu'on est en prison qu'on est un salaud, on est en prison parce qu'on paye... Une bêtise qu'on a faite.
Mais quitte à les occuper, il vaut mieux leur apprendre la cuisine que les arts martiaux. Quand
les arts martiaux,
à mon avis.
Ou l'escalade.
L'escalade, ce qui se fait aussi. Que... Le baniment d'armes.
Seulement, où on sort du truc? Alors, il faut savoir que Héberlin, c'est quand même pas n'importe qui. Il a été élève de Trois Gros, de Lasserre, de Bocuse. Enfin, c'est vraiment un grand chef, quoi. Et alors, il a célébré les mérites avec le jeune garçon dont on parlait avant, qui est monsieur Laurent Ruquier. Célébrer les mérites de réinsertion de Patrick Gâteau. Et quand on s'appelle Gâteau, d'ailleurs, quand on est en tôle, le mieux qu'on a à faire, c'est de la cuisine, faut bien dire. Et Gâteau a expliqué au cours de cette émission qu'il avait passé la moitié de sa vie en prison et qu'il avait passé son CAP de cuisinier et que la seule occasion qu'il a eue dans sa vie de faire la cuisine, c'est quand il était en tôle. Après, il est passé à autre chose. Et effectivement, on peut dire qu'il est passé à autre chose. Parce que entre le moment où il est sorti de tôle et le moment où il a été reçu chez Monsieur Ruquier, il a tout simplement assassiné une dame. Et il est allé en prison pour l'assassinat de Madame Brendel, et c'était pas un petit assassinat, c'est-à-dire il l'a ligoté, attaché à un arbre, ensuite ils ont fait, avec son copain, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils l'ont éventré, et puis ensuite ils sont allés enterrer son cadavre dans une décharge publique. Donc il est allé en prison, il a été condamné, et puis il a été relâché, parce qu'on peut pas, c'est pas humain de garder les gens en prison. Et alors quand il est sorti de prison, il a assassiné une dame. Il a trouvé que finalement ça marchait pas trop mal, et c'était plutôt une occupation intéressante. Et donc il est poursuivi, parce que pour l'instant on n'a pas la preuve qu'il est coupable. On n'a surtout pas la preuve du contraire. Nelly Kremel. Vous vous souvenez de Nelly Kremel? C'est cette dame qui faisait un jogging dans le coin de son village, dans les entourages de son village, et dont on a dit qu'elle avait été assassinée pour 20 euros. C'est quelque chose qui m'étonne toujours, parce que ce qui indigne visiblement les commentateurs, c'est qu'elle a été assassinée pour 20 euros. Si elle avait été assassinée pour 200 000 euros, on dirait, ah, voilà, au moins là, il y a du fric à prendre.
Bon, valable,
mais
oui.
20 euros, vraiment, c'est minable. Alors, monsieur Gâteau, il est accusé d'avoir assassiné cette dame qui est... Et alors, je voulais simplement dire ça. Je veux dire que... Monsieur Ruquier qui nous raconte toutes les avanies, toutes les infamies, toutes les simonies, toutes les cochonneries, il a oublié de nous raconter qu'il avait reçu en 2004, en avril 2004, c'est-à-dire il y a maintenant 14 ou 15 mois, un type qui était un assassin avéré et qui allait se retrouver quelques mois plus tard impliqué dans un nouvel assassinat, et toujours la même chose. C'est-à-dire l'assassinat d'une femme seule qui se promène dans la campagne et qui est assassinée d'une façon abjecte. Alors, on peut pas faire le reproche à Ruquier de ça, il n'en est pas coupable, bien sûr, il est simplement un témoignage. Mais ce que je voudrais dire, c'est que il y a un moment où il faut peut-être faire preuve d'un tout petit peu de pudeur. Il faudrait que M. Ruquier arrête de nous casser les oreilles, hein, avec ses leçons de morale. Ses leçons de morale, il peut en faire des papillotes et se les carrer dans le...
Ah ben non,
hein, dans l'oreille.
Vous allez pour les faire...
dans l'oreille. Et il pourrait vraiment s'occuper de ses propres problèmes de morale.
Je vous apporte une précision.
Oui, apportez donc.
Laurent Ruquier vient d'écrire une pièce qui sera certainement très bonne comme les précédentes, qui va être jouée à la rentrée, qui sera interprétée par Las Palès et qui traite de Landru. Voilà. Vous voyez, il y a peut-être une suite.
Hein. C'est ça. Mais est-ce que vous vous rendez compte que ça montre à quel point on est dans une société de pourriture totale. C'est-à-dire ce monde faisandé, inverti, antiphysique, de tarés qui font des mimiques, qui font des émissions, ils donnent des leçons de morale. Comment, mais monsieur Villepin a invité monsieur Le Pen, c'est inadmissible, c'est intolérable. On voit cette espèce de jeu, de gens qui sont convaincus qu'ils ont le bon droit pour eux et tout. Et on va recevoir un détenu, et on va lui demander d'expliquer comment on se rachète et tout. Le mec se fout de leur gueule. Ouvertement, il explique comment on se rachète en faisant un bouquin qui n'intéresse personne, qui permet de tirer un peu de fric, et le résultat final, quand à peine sorti, il recommence. Il est accusé d'avoir recommencé.
Mais il faut remonter la chaîne, il faut aller chercher qui est l'attaché de presse du détenu.
Ah là là, qui est l'attaché de presse?
Qui est l'attaché de presse
du
type en question, qui a contacté
le
secrétariat.
Et du juge des libertés.
Voilà, c'est...
Et alors après, quand... on me fera la grâce de croire que je ne suis pas un fanatique de M. Sarkozy. Mais quand M. Sarkozy nous dit il faut que le juge qui a remis ces gens-là en liberté paye, et que ça provoque un scandale, mais on se moque de qui, là? Parce qu'un pauvre type qui conduit un autocar, qui renverse son autocar dans le fossé, et qui, par malheur, provoque la mort d'un des passagers de l'autocar, on lui retire son permis de conduire, on lui retire son emploi, on le fout en tôle, on le sanctionne et tout. Alors, pour peu qu'il ait 0,51 g d'alcool dans le sang, alors là, il est raide mort. Mais un juge d'instruction qui relâche un assassin, multirécidiviste, de dire qu'il doit payer, alors ça, c'est vraiment le scandale du siècle. On ne doit pas dire qu'il doit payer. Mais moi, je suis désolé, les juges, c'est des mecs comme les autres. Les juges cons, c'est des juges cons. Les juges salauds, c'est des juges salauds. Ils doivent aller en tôle, ils doivent payer exactement comme les autres. Bien, apparemment, c'est pas l'opinion de tout le monde, vous voyez.
Vous n'avez pas du ministre de la Justice.
Et M. Ruquier, lui, qui célèbre les mérites d'un type qui est un assassin. Oui. En tout cas, c'est avéré pour le premier. Pour le deuxième, ça reste à démontrer. Eh bien, il sort en l'écusse propre, très fier de lui-même. Il a donné la parole à un détenu et tout va bien. Vous savez qu'il y a des moments où il faut vraiment avoir beaucoup, beaucoup de santé pour accepter ce genre de système-là. Et j'avais préparé un texte parce que ce gâteau-là, c'est pas par accident qu'il a tué sa première victime. Hein, il l'a tué d'une façon absolument abominable, mais il faut savoir que c'est un type qui collectionne les condamnations. En un an, il a été condamné à un an de prison par le tribunal correctionnel de Lyon en 75, à un an par le tribunal correctionnel d'Annecy en 77, à 13 mois par le tribunal correctionnel de Lyon en 78, à 5 ans de réclusion par la cour d'assises du Rhône en 78. À 21 ans, il a été renvoyé devant la juridiction criminelle pour des faits remontant aux années précédentes. Il a, pendant 2 jours, il a enlevé et contrainte à tout ce que vous pouvez imaginer une jeune fille de 16 ans. Il a été arrêté. Il a été remis en liberté en 80. Il a commis de nouveaux délits. Il est parti en prison en 81 pour 2 ans et demi jusqu'en 83. À sa sortie, il a rencontré Christian Gay. Il avait alors 27 ans. Il n'avait jamais travaillé. Il avait passé son CAP de cuisinier, qui lui a valu d'être invité dans l'émission de M. Ruquier, et qui ne lui a servi qu'en détention. Et il a recommencé. Ça dépasse l'imagination. Quand on voit que les flics passent leur temps à traquer des types parce qu'ils roulent à 112 à l'heure au lieu de se rouler à 110 sur l'autoroute, qu'ils les arrêtent parce qu'ils ont emprunté un couloir d'autobus pendant 25 mètres, comment on peut tolérer ce genre de choses? Comment on peut accepter d'être traité comme des gangsters dans un univers où les gangsters sont traités comme des honnêtes gens?
Il y a un moment où on pourrait demander à Ruquier et aux autres, d'ailleurs, aussi de temps en temps d'inviter, par exemple, le meilleur ouvrier de France, qui a eu son CAP de cuisinier, mais qui l'a eu dans des conditions différentes.
Oui, mais c'est pas marrant, parce qu'il n'était pas en tôle, lui.
Ah, voilà. C'est tout.
Et puis, bon, là, j'ai été désagréable, donc je vais changer. Je voudrais rendre hommage à quelques Français qui viennent de recevoir une décoration qui les honore et qui honore toute la France. Alors là, quand même, plutôt que de...
Je crains le pire. Non,
non, non, non. Non. Parce que moi, je vais lire le texte parce que je ne voudrais pas qu'on croie que j'y mets une animosité personnelle, ni rien, ni rien de personnel.
Non, vous avez l'air très serein, au contraire.
Hein, voilà. Alors. Donc pour une fois qu'il y a des Français qui sont décorés justement, que c'est pas des joueurs de guitare qui reçoivent la Légion d'honneur, il faut pas hésiter. Les avocats et militants amis de l'Algérie résidant à Toulouse ont reçu les médailles de reconnaissance pour leur solidarité avec le peuple algérien en lutte pour son indépendance. Le consul d'Algérie à Toulouse, Monsieur Kassimi El Hassani Abdelkader, a indiqué avoir remis au nom du président de la République, Monsieur Abdelaziz Bouteflika, des diplômes et des médailles de reconnaissance à monsieur Souquier, ancien bâtonnier de l'ordre des avocats de Toulouse, défenseur du FLN, à madame Cunillon, j'invente pas, je lis, hein, ancienne militante de la cause algérienne, à titre posthume, monsieur Viala, Maître Viala, ancien avocat du FLN, et Madame Mercedes Vroom Vroom, ancienne militante, ont également reçu cette médaille remise dans le prolongement de la commémoration du 50e anniversaire du 1er novembre 54, en présence des moudjahidines, des cadres et responsables d'associations et des familles désintéressées. Je vous signale que nous, on ne fait pas partie des familles désintéressées. Hein. Ah, ils sont intéressés. Au cours de cette cérémonie, M. Cassimi, au Palon Cassimi, bien entendu, ça, tout le monde connaît le prénom, a souligné le fait que cette rencontre, chargée de symboles, était un témoignage de gratitude et un hommage appuyé de toute une nation à ceux qui sont présents et à ceux qui nous ont quittés, poilonnés, dont il a tenu à saluer la mémoire avec recueillement en rappelant leurs engagements résolus. Ils sont pas avares de...
d'adjectifs.
Et leur mémoire, avec recueillement, en rappelant leurs engagements résolus, aux nobles valeurs civilisationnelles fondées sur la liberté et l'égalité poilonnée. Il a également mis l'accent sur l'excellence des relations algéro-françaises et sur la perspective de leur renforcement à travers la prochaine signature d'un traité d'amitié liant les deux pays. Les amis de l'Algérie ont exprimé leur émotion et leur fierté et ont tenu à remercier chaleureusement l'État algérien pour cette heureuse initiative. C'est bien, c'est beau, c'est émouvant, c'est quelque chose. C'est... Moi, je suis très content de savoir qu'il y a des mecs qui ont été décorés parce qu'ils ont permis au FLN France. De flinguer les soldats français en France en 2005, en France, à Toulouse. C'est très bien, c'est très réconfortant, c'est parfait. J'attends avec impatience qu'on décide enfin à décorer les collaborationnistes français qui ont. Les anciens SS français, les anciens
Français. Je pense à mes tantes qui ont été tendues.
Qui ont fait, après tout, pour l'amitié franco-allemande, ce que Monsieur Tartampion et Madame Tartemolle, hélas défaite, ont fait pour l'amitié franco-algérienne. Voilà. Ces choses étant dites, saluons le courage de Monsieur Breton, qui, à peine devenu ministre des Finances, se retrouve traîné devant.
C'est quand même un poste délicat, ministre des Finances. Il y a toujours des enquiquinements.
Non, attendez. Les 10 derniers ministres des Finances, il n'y en a pas un qui a tenu un an.
Voilà.
Ils ont tous été éjectés.
Il y a toujours quelque chose.
C'est quand même fabuleux. Ouais. Pas un seul. Soit ils font des... Enfin bref. Le précédent, M. Breton, il faut quand même rappeler qu'il a été mis à sa place parce que il avait, lui, son prédécesseur était accusé d'avoir un appartement trop grand. Payé par l'État. M. Breton, il n'a rien fait. Lui, il a simplement signé les papiers. C'était fabuleux ce matin sur Europe 1. Il expliquait que...
C'était très bien chez le Cabache.
C'est intéressant. Mais qu'est-ce qu'on me reproche ?
Enfin, quoi ?
Je fais partie d'un conseil d'administration. Vous croyez quand même pas que je vais lire...
Ce qu'on me présente.
Moi, on me présente des trucs. On me dit, ça a été approuvé. Je signe.
Et on est dit, ça signait. Et les autres, c'est des craques.
Et les autres... Moi, je suis un petit. Tandis que les autres... Quel caïd. Et c'est ministre, tout ça. Voilà.
Justement, c'est pour ça.
Quoi d'autre ?
Il est très bien, celui-là.
Il est bien.
Oui, il est joli garçon. Il parle
qui,
bien.
Breton ?
Ouais.
Ils sont tous jolis garçons, enfin, par exemple.
Ah bon ? Est-ce que joli garçon ?
Oui, bon. Tout à fait.
Faites penser à Victoria de changer sa paire de lunettes, parce qu'à mon avis, il y a un problème.
Elle a des goûts pervers.
Voilà. Non, je pense que c'est les lunettes qui vont pas. À la Courneuve, jeunes et policiers se disputent le territoire, nous dit le monde.
Le territoire, c'est géant, ça.
Non, mais on croit rêver. Entre provocation, insultes et violences, le quotidien des forces de l'ordre chargé de patrouiller dans la cité des 4000 où est mort le petit Sid Ahmed est éprouvant. Les jeunes nous testent en permanence, dit l'un d'eux. Bah écoutez, moi j'ai la solution. Vous leur bottez le cul, vous allez voir qu'ils vont arrêter de vous tester assez rapidement. Parce que le test du bottage de cul, ça fait quand même assez mal. Non, mais... Moi, je sais plus. Je sais pas où aller. Peut-être en Roumanie ?
En Bulgarie.
En Bulgarie ?
En Hongrie.
Non, c'est en Bulgarie,
c'est
ça.
C'est à l'Est, tout ça.
Les cocons ont pris le pouvoir. En Bulgarie.
Voilà, bon.
Serge de Becquet, oui. On aimerait, nous dit cet auditeur, que vous invitiez de temps en temps des hommes politiques comme Villiers, Le Pen, Maigret, pour donner des solutions à tout ce que vous dénoncez.
Eh bien, moi, je vais vous dire. J'attends que M. Villiers, Le Pen... Karl Lang, Bruno Maigret se rencontrent et mettent au... Bruno Maigret, qu'est-ce que je viens de dire ? Oui, bon, pourquoi pas, après tout. Je voulais dire Bruno Gollnisch. Mais ben, Bruno Maigret peut participer si c'est la mienne. Non, mais voilà. Mais enfin, disons que c'est quand même... Ça boxe pas tout... Bon, enfin, bref.
Voilà,
rencontrez-vous, arrangez-vous entre vous.
Je viendrai présenter le résultat.
Le premier qui sort vivant, il a gagné.
Il a le droit de venir
c'est
en
l'histoire du book. Non, non, je ne raconte pas. Voilà. Là, si je raconte,
oui, hein,
c'est un type qui rentre dans une salle où il y a un book et on lui dit si vous arrivez à rester en compagnie de ce book plus d'une heure, vous avez gagné. Et au bout de 10 minutes, il y a le book qui dit écoutez, donnez-lui la victoire. Le book sort et dit donnez-lui la victoire, moi je ne peux plus tenir. Voilà. Ça n'a rien à voir avec tout ce que je raconte.
Non.
Voilà. Mais alors, il y a quand même une grande nouvelle. Je voudrais dire, ça mérite d'être médité. Monsieur Oussédic, vous vous rappelez qui était monsieur?
Oui.
Vous vous rappelez d'Oussédic, l'avocat Fellouze? Bon, il a fini par canner. Et il y a eu un procès. Et en ce moment, c'est très marrant parce que il y a beaucoup d'affaires. Ou la famille de maghrébins qui vivent en France intervient. Alors c'est la femme veut qu'il soit inhumé en Algérie, la sœur, la fille veut qu'il soit inhumé en France. Et là, Maître Oussédic, ancien avocat du FLN, il a passé l'arme à gauche. Et le 21 juin, ses proches. Ont assigné en référé son épouse et ses enfants pour empêcher son inhumation dans un cimetière de l'Oise. À l'appui de leur demande, il faisait valoir que M. Oussédic, figure de l'indépendance algérienne, devait retrouver sa terre natale. D'ailleurs, à mon avis, il aurait mieux fait de le faire avant de crever. Ce qui était d'ailleurs, selon eux, son désir profond. Mais la Cour d'appel a estimé que les attestations produites en ce sens n'établissaient pas clairement la volonté du défunt. Au contraire, les attestations produites par la défense de la femme et des enfants de M. Oussédic montrent clairement l'attachement et la confiance que le défunt portait à son épouse. Autrement dit, voilà un type qui a combattu toute sa vie la France. Il a combattu dans le FLN et ensuite il l'a combattu en tant qu'avocat. Et quand il meurt, sa femme dit il souhaite être enterré en France. C'est extravagant. Et la justice dit oui, oui, mais bien sûr, c'est comme ça qu'il faut faire. Moi, je suis pas étonné qu'il y ait tant d'orages. Hein. Je pense que le bon Dieu est assez en colère par les temps qui courent. Autre chose, Europe, diffamation sans frontières, nous dit Libération. Un futur règlement obligerait les journaux à respecter le droit de chacun des 25 pays membres. Alors là, mes enfants...
On n'a pas fini.
Le procès, pour moi, c'est le résultat, c'est le 7 juillet.
Ouais. Les moulages du gâteau, c'est le 7 juillet.
Les moulages du gâteau, le 7 juillet. J'espère qu'ils auront pris, un rasoir pour les œufs, parce que si je suis condamné à payer quelque chose, il va falloir qu'ils trouvent le fric, ça ne va pas être facile. Hein. Monsieur Descaves, entrez, je vous en prie, monsieur le député. Monsieur Pierre Descaves qui fait son entrée dans le studio. Je ne vous le décris pas, vous le connaissez.
Il
fait le tour de la table. Voilà. Alors, je voudrais, comme je sais que ça plaît beaucoup aux standardistes, je voudrais lancer un concours.
Non, pitié.
Comment non, pitié?
Moi, je m'en fiche, je ne suis pas standardiste
en
ce moment.
Justement. Je voudrais demander aux auditeurs tristes, dans la demi-heure qui suit, de téléphoner pour dire. On va faire un sondage express, comme on dit maintenant. Est-ce que vous êtes pour ou contre les Jeux Olympiques à Paris?
Première non. Question.
Bon, ben attends, on ne vous demande pas votre avis à vous, on demande aux auditeurs, vous n'êtes pas auditeur.
Je ne peux pas me retenir.
Vous n'êtes même pas auditrice. Alors, première chose, êtes-vous pour ou contre les Jeux Olympiques à Paris? Deuxième question, êtes-vous prêt à payer? Parce que c'est quand même ça le problème. Hein. Il ne suffit pas d'être pour, il faut casquer. Voilà, donc vous téléphonez, qu'est-ce que c'est le téléphone?
01 46 51 00 85.
Ça va les occuper un moment.
Ouais, je vais les numéro de la mairie de Paris plutôt.
Non, mais c'est un sondage express Radio Courtoisie.
Ah, bon.
Enfin, pas Radio Courtoisie d'ailleurs. Libre journal
de Beketsch.
Beketsch sur Radio Courtoisie. Donc, vous dites, oui, je suis pour les Jeux Olympiques, non, je suis contre. Ou oui, je suis contre, comme vous voulez. Enfin, je suis pour, je suis contre. Je veux bien payer ou je veux payer. Alors vous êtes, il y a quand même une infinité. Je suis contre, mais je veux payer, mais je veux bien payer. Je suis pour, mais je ne paierai pas. Enfin, vous vous arrangez. Voilà. Soyez gentils de répondre parce que ça m'intéresserait de savoir parmi les 12 auditeurs qui nous écoutent, sauf la répétition. Quoi?
12, comme vous voulez.
12 millions.
Ah bon, d'accord. Ça c'est peut-être beaucoup, mais bon.
120 000.
Il y Tiens, il y en a un des 12 qui dit « Serge de Becquet, c'est une machine à râler que j'adore. » Mais que nous propose-t-il ? C'est un auditeur, hein, c'est pas une auditeur.
Alors, je vais vous dire, c'est très, la réponse, elle tient en très très peu, en deux mots. Un article et un nom commun. Le roi. Parce que, c'est pas tellement que je suis royaliste. Si, je suis royaliste, bien sûr, mais c'est surtout que... comme c'est le roi c'est le lieutenant, c'est-à-dire il exécute les décisions du créateur. Et après on s'écrase, on exécute, puis on n'y a plus à discuter. Hein, vous êtes d'accord? Ou alors si c'est pas le roi, ça peut être le regretté chancelier, mais je préférerais le roi quand même.
Hein? Non, c'est le roi et le regretté chancelier comme premier ministre.
Ils vont pas s'entendre. D'abord, le regretté chancelier nous a quittés.
Voilà.
Dans des conditions d'ailleurs mal éclaircies. D'autres questions intelligentes?
Si la peine de mort existait pour mensonge, Serge de Becquet y aurait droit.
Ah.
Notamment quand il dit « Je ne fais pas lire les messages car ils arrivent après le sujet développé ». Il faudrait quand même qu'il coupe le nénuphar qui lui pousse dans le nombril pour refermer le cercueil. Bon, quand il a besoin des auditeurs, autrement que financièrement, il dit « téléphonez-moi » et non « téléphonez à la radio ». Nombriliste.
Je n'ai pas compris tout, mais c'est intéressant. Merci, monsieur. Essayez de reformuler vos questions en français de langage.
C'est le nénuphar, moi, qui m'inquiète.
Le nénuphar dans le nom.
Oui, c'est très étonnant. Même aux Folies Bergères, ils n'ont pas fait encore.
C'est toujours mieux que ce que disait notre ami Roger Olindre. Écarter les enfants, je veux dire quelque chose d'extrêmement grossier. Mais Roger, quand il est très en forme et qu'on lui téléphone, il dit « bon, on se voit ». Il dit « oui, rendez-vous à tel endroit, tu me reconnaîtras, je serai à poil avec une plume dans le... »
Dans le nénuphar.
Merci. Donc, quoi, ça vous plaît?
Rien.
Non, mais ça n'empêche pas d'être un grand bonhomme. C'est pas parce qu'on dit des bêtises qu'on est... Enfin, des bêtises, même pas des bêtises d'ailleurs. Bien, alors, pour effacer tout ça, je donne directement la parole à monsieur... J'allais dire monsieur l'abbé, c'est pas monsieur l'abbé, au père Arguez. Oui, parce que il se trouve que ce soir, on a un peu de temps pour parler d'un sujet que j'aime particulièrement et dont on parle pratique, dont on parle toujours rapidement, enfin, on développe pas. C'est le village du Gerver-le-Christ. Alors, j'aimerais bien que vous nous en parliez un peu plus, parce que, d'abord, vous êtes le père Arguez, je précise, vous êtes le directeur de la maison d'enfants du village des enfants de Riaumont, et vous avez acheté, faut bien dire, hein, vous avez acheté un village qui était désaffecté, qui s'appelait le Gerver, que vous avez appelé le Gerver-le-Christ, c'est-à-dire
Le Gerver, ça veut dire le grand village.
Le
Gerver-le-Christ, le grand village du Christ, parce que à côté de Gerver, il y a Inzizac-le-Christ, il y a l'O-Christ aussi, c'est un peu plus haut dans le Finistère, et c'est très beau, parce que...
Alors, ce village du Christ, c'est un village en ruine qui était totalement désaffecté, c'est pour ça que vous l'avez pu acheter, vous n'avez pas acheté contrairement à ce qui se passait de sympathique au Moyen-Âge, vous n'avez pas pu acheter les paysans et les habitants en même temps que les pierres, vous êtes obligé de vous contenter des pierres, et encore, elles n'étaient pas toutes les unes sur les autres. Mais le résultat, c'est que vous êtes retrouvé à la tête d'un patrimoine.
Un patrimoine immense, parce qu'il y a 75 hectares. Mais ce qui est très beau, c'est que d'abord, ces ruines sont éloquentes. Hein. Et il y a cette chapelle qui nous appartient pas, mais qui appartient à la mairie de Plouet, dont on a la clé. Et puis, ce village ruiné, c'est un petit peu à l'image de la France, qui est ruinée moralement. Et c'est vrai que donner comme mission à des enfants de ressusciter ce village dans une atmosphère religieuse, dans une atmosphère de chrétienté et de scoutisme, de tradition, c'est une aventure exceptionnelle.
Parce que ce village, vous en avez fait un centre de scoutisme de la tradition, fondé sur le concept même du scoutisme de tradition, dont Riomont est la représentation la plus vivante.
Absolument, parce que notre institut religieux est issu directement de la pensée du Père Sevin, qui avait imaginé que des chefs scouts pourraient donner leur vie, non seulement pour le scoutisme, en tant qu'en quelque sorte aumônier scout, mais aussi pour les enfants déshérités. Et donc, ce rêve a été réalisé pour la branche féminine, la Sainte Croix de Jérusalem, qui a son siège à Boran-sur-Oise, qui a d'ailleurs plusieurs écoles, dont une à la Chénois, en forêt de Compiègne, avec comme spiritualité le scoutisme. Et puis, post-mortem, le père Revé avait entendu ce rêve du père Sevin, et après la guerre, en 46, et le père Revé a repris cette idée du père Sevin, grâce à Mgr Rupp, qui l'a appuyé de toutes ses forces, et donc notre institut religieux, eh bien, est imprégné, imbibé de scoutisme. C'est pourquoi nous avons des bures kaki, de la couleur de la chemise des scouts. Et donc, c'est vrai que le scoutisme est mal en point actuellement. On le sait, hein. Il y a une crise dans le scoutisme depuis la réforme Pioneer Rangers de 1964, et donc il y a eu énormément de scouts déchirés, dévissés, tout de suite les scouts d'Europe, ensuite les scouts unitaires, mais aussi beaucoup d'autres associations qui se sont fondées, des petites associations, hein. Jean-Jacques Gauthier, qui est un historien du scoutisme, compte une soixantaine d'associations qui existent, et au fond, Riomont aurait pu entrer dans une de ces grandes associations. Et le père Revé, à l'époque, j'en parlais tout à l'heure à Philippe Maxence, quand on lui a proposé d'être aumônier des scouts unitaires, le père Revé a dit non, la France est tellement divisée, le scoutisme est tellement divisé, c'est chez nous, à Riomont, qu'il faut montrer ce qu'est le scoutisme, humblement, sans vouloir faire la leçon à personne. Et donc, cet acte d'humilité, au fond, eh bien, est assez extraordinaire, parce qu'on se retrouve, effectivement, maintenant avec 500 scouts et avec des listes d'attente sur nos associations. Alors le Guerveur est pour nous un acte concret pour la jeunesse de France.
Mais vous avez, pardon de vous couper mon père, je voudrais que vous précisiez ça. Vous avez une troupe scout qui s'appelle donc les scouts d'Environnement. Vous avez un village qui s'appelle le village d'enfants d'Environnement. Vous avez un autre village qui s'appelle le Guerveur le Christ. Mais vous avez encore autre chose qui est les spahis.
Oui.
Alors, ça surprend toujours. Quand on va vous voir à Riomont, d'abord on est absolument ébloui, on est ému aux larmes par la force de ce village, ce qu'on voit, cette espèce de richesse extraordinaire de vie, puis le décor est magnifique.
Donc, oui, ce sont les pierres qui parlent.
Les pierres, oui.
Oui.
Bon, et puis, alors là-dessus, on voit, bon, quand on est un vieux scout comme moi, on se dit, c'est formidable, c'est un grand succès du scoutisme et tout, puis là-dessus, on va arriver à un gamin avec une espèce de calot. Attends, il n'y a aucun uniforme scout qui est comme ça, Pierre. Hein, bon. Alors on dit au gamin, mais tu appartiens à quelle patrouille? Dis-moi, je suis spahi. Spahi, qu'est-ce que ça veut dire? Alors pourquoi avez-vous fait des spahis parallèlement au scout? Puisque le noyau dur, enfin l'origine de votre combat, c'est le scoutisme.
Oui, parce que
pourquoi avoir fait,
faut pas oublier que l'État nous a poussé très très loin, on nous a encouragés, on nous a même donné des subventions qu'on réclamait pas, on a construit des foyers, on nous a encouragés, le père Revet était décoré, et on avait 40 enfants, après 60, 80, 100, on s'est dit, ils vont arrêter, ils nous ont poussé à 120, 140, jusque 180 enfants, tellement la méthode du scoutisme et la méthode Riomont est excellente. Et puis, bien sûr, tous nos enfants ne pouvaient pas faire du scoutisme, parce qu'il faut, le scoutisme est un choix. Le garçon choisit de faire du scoutisme. Alors le père Revet a eu cette idée géniale. Au début, c'était les chemises bleues, mais on a très vite trouvé les calots de spahis. Et au fond, on avait 25 ou 30 garçons qui faisaient du scoutisme dans la troupe Henri de la Roche-Jacquelin et la troupe Charles de Foucault. Et les autres, eh bien, étaient spahis et ils campaient comme les scouts avec le système des patrouilles, parce que l'idée de Baden-Powell est géniale. Avec le système des patrouilles, c'est ce grand frère qui aide le petit frère. Le grand frère, il a 15 ans ou 16 ans, et le jeune qui vient de monter des louveteaux, il a 12 ans. C'est une famille, ils s'entraînent les uns les autres, et c'est une sorte de micro-société qui existe, et c'est une micro-chrétienté, parce que quand on pense qu'on donne un territoire réel à ses enfants, c'est-à-dire une forêt, un village abandonné, eh bien c'est une sorte de petite patrie, et une sorte de micro-chrétienté qui existe, dont le Christ est roi, et bien sûr on voit on sent chez ces garçons d'abord une sorte de prise de conscience de la responsabilité, et surtout s'il y a des prêtres et nous sommes là, il y a la grâce de Dieu. Alors quand la grâce de Dieu est là au milieu du camp, eh bien il y a des miracles, il y a des confessions, il y a des messes, il y a des processions, c'est vraiment extraordinaire. Et moi je suis témoin depuis maintenant pratiquement 38 ans de ce système éducatif. Alors l'ESPAI, il porte, pourquoi l'ESPAI? Parce qu'un jour, porte de Clignancourt, le père Revel est beaucoup au marché aux puces, et on récupérait des gamelles, des chemises, vous savez, Riomont n'est pas très riche, hein. Même actuellement, merci, même si on a des dons, les dons ils sont pour l'église.
Hein.
Donc c'est vrai qu'on récupérait les trucs à 4 sous du marché aux puces pour vivre, hein. Et c'est là qu'on l'a trouvé au moment où les spahis ont été dissous. Hein, et ils ont été dissous à Senlis. D'ailleurs, il est parti un matériel extraordinaire. Il est parti des selles de chevaux. Il est parti des harnachements extraordinaires, des manteaux rouges, blancs de spahis. On a trouvé ces calots qui étaient dans des sacs marins. Il y avait 10 ou 12 sacs marins. Et le père Revet m'a dit, on va acheter ces calots et on va pas les laisser perdre. Ils vont pas partir pour faire des déguisements. On va ressusciter l'esprit spahis. Et c'est comme ça que les calots sont arrivés à Riomont.
Parce que vous vouliez créer une autre dimension, ou parce que vous pensiez qu'il y avait des jeunes qui n'étaient pas destinés à
devenir scouts? Oui, parce que il fallait faire autre chose. Et puis, c'est vrai que c'est toujours l'esprit scout qui existe. Alors, on pouvait passer des spahis aux scouts, ou même des scouts aux spahis. Parce qu'il y a des garçons qui étaient arrivés à l'âge de chef de patrouille. Ils disaient, mon père, maintenant, je me mets au service des spahis, vous avez besoin de moi.
Oui, quand même.
Je fais le camp avec les spahis. Et donc le garçon prenait son insigne de promesse et le mettait sur son calot de spahis pour rendre service.
Ouais.
Voilà. Donc il y a une intercommunication, si vous voulez, entre les deux groupes qui est assez extraordinaire.
C'est intéressant, c'est vrai. Ça. C'est une espèce d'ouverture du scoutisme vers quelque chose qui reste à créer. En fait.
Mais je dirais qu'à certains moments, moi j'ai vécu ça, les spahis étaient meilleurs scouts que les scouts au niveau installation, au niveau grand jeu, au niveau veillée, au niveau chant, en technique scout, les spahis étaient très 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 forts, c'est sûr. Mais il y avait une sorte de compétition entre les scouts et les spahis, et nos plus beaux feux de camp ont été réalisés ensemble par ces différentes unités.
Vous avez eu combien, vous, comme directeur du village de Riomont, vous avez formé combien de jeunes?
Depuis la mort du père Revet en 86, ou encore avant, quand j'étais éducateur spécialisé.
En tout.
Moi, je pense que j'ai vu 3000, 4000, 5000 enfants passer à travers, si je puis dire, mes mains, au camp, à Riomont, ou ailleurs, parce que on suit aussi des enfants qui sont encore dans leur famille.
Je me souviens, c'est une question un peu bête, mais si on vous demandait de donner un pourcentage de réussite, c'est-à-dire ceux dont vous savez comment ils ont évolué, donc quelle est la proportion qui
vous... Je sais que vous voudriez faire un téléthon sur Riomont, et tout à l'heure je voyais un adulte qui est venu chez nous, qui a raté son adolescence, qui a été persécuté, frappé par son beau-père, et tout à l'heure je lui disais, si un jour on fait un téléthon, j'aimerais bien qu'en tant qu'adulte vous veniez faire un témoignage, parce que vous êtes arrivé chez nous, vous aviez 35 ou 40 ans, et il me considère comme ce père d'ailleurs, ce garçon. Je lui ai fait vivre sa jeunesse qu'il avait ratée, et tout à l'heure il m'a quitté les larmes aux yeux, et je lui il voulait visiter Radio Courtoisie. Je dis non, on peut pas pour différentes raisons. Mais je pense, d'abord, par exemple, dernièrement, il y a un garçon, je pensais on avait tout raté. C'est un garçon très orgueilleux, etc. Il était d'un milieu, je peux pas dire à la radio parce qu'ici s'il écoute, il pourrait se reconnaître. Mais je pensais avoir tout raté. Je suis son parrain. Et 25 ans, 26 ans après, il est revenu en pèlerinage chez nous. Je dis, mais c'est la grâce de Dieu, c'est formidable. Il se rappelait tous ses grands jeux, il se rappelait le père Revet, etc. Moi, je pense, bien sûr, on donne toujours des pourcentages, c'est toujours un peu aléatoire, etc. Bon, moi, je crois que même dans les pires cas, ceux qui sont en prison, et qui sont actuellement en prison, garçons de Riomont, ils se souviennent de leur chant, ils se souviennent du père Revet, ils se souviennent des valeurs qu'on a défendues au village. Et même si ces valeurs, ils les vivent pas, eh bien, quand ils ont affaire aux malins, etc., ils les défendent. Moi, je crois que, sans exagérer, il y a 80% des enfants qui sont passés chez nous qui sont marqués de façon indélébile. Il reste 20%. Je pense d'abord que vous avez des enfants profondément pervers. Tout à l'heure, vous avez parlé d'un assassin. Et j'ai eu devant moi des garçons qui étaient des bombes pour la société. Je regrette qu'une chose, et ça c'est de la faute des magistrats, que malgré tous les rapports de comportement qu'on a pu faire, et en ce temps-là on était jugés sur nos rapports de comportement, on nous reprochait de pas en faire assez, et bien qu'on n'ait pas tenu compte de ce qu'on avait dit dans ces rapports de comportement. Et si certains ont pu être assassins, et c'est vraiment une très très faible minorité, et bien les magistrats en portent l'entière responsabilité. Parce que souvent, les magistrats, jusque vers 1968-70, eh bien, ont été très corrects. Songez qu'on était la seule maison d'enfants où les juges embrassaient les enfants. Ils venaient le soir au coucher. Hein. C'était le temps où on faisait des lits à étage, dans les couloirs. Parce que Riomont était tellement bien qu'il fallait monter les effectifs. Il n'y a pas de question de sécurité à ce moment-là. Et les juges étaient extraordinaires. Hein, et nous encourageaient. Et quand il y avait un problème, l'enfant allait voir son juge. Le juge disait, mais le père Arguarche a raison, le père Revet a raison, écoute, continue, tu as un passage difficile. On les encourageait. Et ils sortaient par le haut. Tandis que, à partir de 77, quand il y a eu cette montée des juges trotskistes, gauchistes, maoïstes, anticléricaux, mauvais, méchants, eh bien, on a eu, bien sûr, des gosses qui ont dit, mais oui, mais mon juge, il va me remettre chez moi. J'ai qu'à dire ceci ou j'ai qu'à dire cela. Et nous, on était toujours en tort. On pouvait même pas se défendre. Alors, à quoi ça sert d'avoir poussé notre maison? On n'a rien demandé à l'État. C'est l'État qui est venu nous chercher. Le père Revet s'occupait de gosses délinquants dans les courées, dans les corons de Liévin, de Lens, etc. Bon, il a vu une aura formidable avec sa grosse moto. Tout le monde voulait monter sur sa grosse moto. C'était comme une sorte de chevalier sur son cheval qui emmenait derrière lui des dizaines et des centaines de gamins. On l'a fait monter. Je me souviens, Monsieur Gratadour, le premier juge de Béthune, disant au père Revet, on a besoin de vous, des hommes, des prêtres comme vous, on en a besoin pour la société, on ne sait plus où mettre nos enfants. C'est les débuts des maisons d'enfants, dans les années 50-60. Et la plupart d'ailleurs étaient des chefs scouts bénévolement qui ont lancé les premières maisons d'enfants. Et alors, bon, vous avez connu notre crise, la tempête, on a été accusés de tout. Et encore maintenant, on est comme ça, on flotte. Hein, on est... Mais c'est vrai qu'on est fiers de ce qu'on a fait et que moi je suis très fier d'avoir été aux côtés du père Revet comme éducateur. C'est lui qui m'a formé. Je ne connaissais absolument rien. J'avais 21 ans. Il m'a formé entièrement. J'ai fait 3 ans en école d'éducateur pour avoir ce diplôme d'État parce qu'on peut rien faire actuellement si on n'a pas des diplômes d'État. Moi, j'ai connu des garçons formidables qui n'avaient pas les capacités d'avoir ce diplôme d'État, qui n'ont jamais pu être éducateurs parce que la barre était très très haute au niveau intellectuel. Ils avaient un bon sens, des éducateurs sensationnels, comme vous en connaissez, comme tout le monde en connaît. C'était des chefs scouts. Ils étaient excellents. Mais voilà, les écoles d'éducateurs étaient aux mains de la subversion. Moi, j'ai fait 3 ans en école d'éducateur. Je peux peux dire ici que j'ai eu 2 lavages de cerveau de 5 jours que j'ai analysé après, hein, où on m'a dit tout ce que vous on vous a enseigné c'est faux, etc.
Vous n'avez qu'un cœur, donc le lavage de cerveau ça marche pas.
mais non, il fallait avoir l'antidote le soir. Moi je revenais voir parce que vous savez, hein, même si vous êtes séminariste, si vous avez envie de vous donner au bon Dieu, ben le malin est très 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 fort, et donc il faut avoir un prêtre qui vous dise bon, ben si on t'a dit cela, ben c'est parce que on avait telle idée qu'on voulait te mettre dans la tête, et tu répondras ça demain.
Je vais vous poser une question, mais c'était pas prévu du tout, et je comprendrais très bien que vous me disiez je peux pas me prononcer parce que c'est trop compliqué, je connais pas le dossier et tout, mais là, dans le prochain numéro du Libre Journal qui sort, je publie un papier sur l'affaire Lefort. Faire du père Lefort. Moi, ma conviction, c'est que le père Lefort a été pris dans un piège. Il a été arnaqué, il s'est fait avoir. On s'appuie beaucoup sur le témoignage de ces jeunes Africains qui prétendent qu'ils ont été violés par lui. Et moi, ma conviction, c'est que c'est pas vrai, qu'ils mentent. Est-ce que vous qui avez l'expérience maintenant de 20 ou 30 ans de relations avec des jeunes en France, je ne parle pas de jeunes africains, il y a rarement de jeunes africains, mais est-ce que ça vous paraît vraisemblable ou totalement exclu que des jeunes puissent mentir d'une façon cohérente, constante, volontaire.
Mais absolument. Et d'ailleurs, pour détruire Riomont, des assistantes sociales m'ont dit, on a envoyé des enfants les plus pervers pour essayer de faire tomber le père Revet. Et le père Revet m'a dit, écoute, frère Jean-Paul, fais très attention à certains garçons, parce qu'ils sont tellement pervers qu'ils risquent de te piéger. Et vous savez, quand il y a un témoignage, on va prendre le témoignage de l'enfant et puis le témoignage du prêtre. Bah, je vous ai dit tout à l'heure, je me suis fait insulter dans la rue par un maghrébin et j'avais la colère qui montait et il m'a dit je demande pardon à ceux qui m'écoutent il m'a dit alors monsieur le curé on vient niquer les enfants mais il n'y en a pas ici dans ce quartier et il était comme ça à 15 mètres de 20 mètres de moi. Je dis mais c'est pas possible que les prêtres catholiques se laissent traiter comme ça en France, ça vient de m'arriver. Je dis si personne ne réagit, si nous on ne pourra pas se défendre et nous, on a vocation au martyr, vocation à la calomnie, etc. Mais que les chrétiens défendent leurs prêtres aujourd'hui. Parce que les gens, quand on les interroge, ah ben oui, c'est dommage, il y a ceci, il y a cela. Enfin, pour quelques cas malheureux, et les cas malheureux, je vais vous dire une chose, c'est que les cas malheureux, souvent, c'est parce que ce sont des prêtres qui n'avaient plus de vie intérieure, plus de vie religieuse, qui sont victimes de la crise de l'Église, et c'est à cause de cette crise de l'Église qu'il y a eu des débordements, des exactions, etc. Le jour où on dira, justement, que les prêtres ont été faibles et qu'ils étaient plus armés face à des gamins pervers, on dira, ben voilà, ça fait 40 ans qu'on subit cette crise de l'Église. Malheureusement, autrefois, quand un prêtre tombait, quand un prêtre avait un grand malheur comme celui-ci, eh bien, il était envoyé dans un monastère, ses confrères prêtres venaient le trouver, etc. Et puis il y avait la justice, parce qu'il ne s'agit pas non plus de pas avoir des sanctions de justice. Mais aujourd'hui, c'est tellement croustillant de voir des prêtres qui sont attaqués comme ça. On sait très bien quand il y a un inspecteur de l'éducation nationale qui a exactement la même aventure, la même chose, etc. On sait très bien que ça fait 2 ou 3 jours. Mais alors quand c'est un prêtre, eh bien, on revient sans arrêt dans les émissions de télévision, sans arrêt. Les gens en ont par-dessus la tête, mais les gens en ont par-dessus la tête ceux qui ont une certaine formation, ceux qui savent pourquoi on veut traîner le sacerdoce catholique dans la boue. Mais le jour où un évêque français se lèvera pour dire c'est inadmissible ce qui se passe. D'ailleurs, quand il y a eu les histoires de pédophiles aux États-Unis, c'était aussi des problèmes d'argent. Parce qu'évidemment, il suffisait de trouver un enfant qui témoigne, et derrière, l'Église, les évêchés américains étaient obligés de donner des millions et des millions et des millions de dollars. Bon, or, ça devient un système de business, parce qu'il suffit de trouver un ou deux garçons. Et actuellement, en France, on va en arriver là. Hein. Et les évêchés sont timorés, ne bougent pas, ne font rien sans dénoncer. Ils dénoncent absolument pas les manœuvres qui vont se passer dans ces 10 prochaines années, parce qu'on y est presque. Et c'est grave, parce que je vous dis, si un seul évêque français se levait aujourd'hui pour dénoncer la subversion qui veut tuer le catholicisme, les catholiques de tradition, etc., eh bien, il aurait derrière lui des centaines de milliers de personnes. Mais il faut encore avoir ce sursaut chrétien. Et moi, je pleure avec mes frères, avec ma communauté, avec d'autres communautés de la tradition, et de voir que on est dans notre coin, on ne peut pas faire grand chose, on prie, et c'est tout ce qu'on peut faire. Serge, je suis content que vous m'ayez donné la parole, parce que je crois que c'est un sujet très important pour l'Église de France, et il faudra un jour quand même que l'Église de France traite ce sujet correctement, mais pas de façon honteuse. Après tout, on est fiers d'être prêtres, certains sont tombés, mais qu'on ne se serve pas de ça pour dire tous les catholiques, en tout cas tous les prêtres, sont comme cela. C'est pas vrai. Moi, j'étais en contact de prêtres, je suis fier d'être prêtre, je suis fier de m'être occupé d'enfants, et je dis, il y a un danger chez certains enfants, c'est vrai, et il faut qu'il y ait une formation, justement, de ces prêtres, pour qu'ils fassent attention de ne pas tomber dans les pièges de la subversion, dans les pièges du diable, parce que c'est le diable qui est derrière.
Vous avez des messages, Victoria, pour le père ?
Oui. Alors, d'abord, une chose pratique. Quel est le nom et l'adresse de l'association ? Oh non, c'est pas celle-là, pardon. Excusez-moi. Il vous demandait le nom.
Ça me boit, qu'est-ce que je vous dis dans la gueule ?
Ça tend, oui, beaucoup. Est-ce que le père Argouache pourrait préciser l'adresse du village breton ? En l'articulant bien, et parce qu'on a mal entendu tout à l'heure.
Alors, c'est
dites-le bien doucement.
Le Gerver, L-E, plus loin, Granger, U-E-R-V-U-R, le Gerver, Lochrist, L-O-C-H-R-I-S-T, 56-240, Plouay, P-L-O-U-A-Y. C'est à 25 km de Lorient, Plouay. Voilà.
C'est pas très loin de Lorient, en s'embêtant, c'est mal fréquenté ce coin-là.
C'est
le breton. Il y a beaucoup de bretons du côté
oui,
de Lorient.
Et vous n'aimez pas les bretons hein
Il y a du pour et du contre. Il y en a qui sont mieux que les autres. Je vous explique ça en privé.
C'est éternel, Lorient. Hein c'est éternel, Lorient.
Ah, c'est vrai que Lorient est éternel, ça, c'est sûr.
Alors, l'auditeur qui demandait que vous articuliez bien nous dit, j'ai un ami résident à Créné, non ?
Oui, c'est ça.
C'est ça. Il a remis en route un pardon du côté de Ploédu, dans le Morbihan, et il a cherché votre village à travers toutes ses relations à Hennebon sans parvenir à le trouver.
Oui, parce que nous sommes des clandestins. Vous savez, c'est très mystérieux, Riomont. Donc, évidemment, il faut trouver la chapelle Saint-Vincent. Si on a la chapelle Saint-Vincent, le village abandonné est derrière la chapelle Saint-Vincent. Le Gerver existe, il faut tomber sur les vieilles cartes d'état-major, et actuellement, on fait un travail fantastique.
De toute façon, la bonne solution, c'est d'envoyer un chèque.
Les écriteaux, on fait des écriteaux. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a une grande veillée. Venez au Gerver cet été. Il y a les trois troupes scouts et la troupe spahi qui font une grande veillée le 23 juillet à 21h. Le 23 juillet à 21h au Gerver, ce sera fantastique. Moi, j'y serai, je viendrai de Vendée parce que je suis encore au Parc Soubise et il y aura une très belle veillée. Alors, venez découvrir le Gerver cet été si vous êtes en Bretagne ou même très loin. Samedi 23 juillet, 21h, au Gerver, 2 km de Plouay. Et puis, je veux même exceptionnellement donner mon portable.
Paul.
Comme ça, je pourrais avoir des insultes.
Vous n'êtes pas sorti de l'auberge.
Intérieurement changé tout de suite.
Voilà. Donc, moi, je ne le donne pas, alors, monsieur le marquis.
Ah, ben non, vous avez dit. Alors, maintenant, vous êtes obligé. Ah,
ben voilà, merci, Serge. Je savais que vous alliez
dire.
06-08-32-43-15. Voilà.
Répétez s'il vous plaît.
06-08-32-43-15. Voilà. Alors ceux qui veulent insulter le sacerdoce catholique, c'est pas la peine de me téléphoner. Je suis un prêtre debout et à genoux, et donc ça servira à rien.
Si vous voulez des gifles, vous donnez votre adresse.
Voilà.
À propos, alors un autre message, à propos de la natalité en France, le scoutisme ne va pas bien parce que nous n'avons pas assez enfanté et donc le scoutisme ne peut pas être renouvelé.
Alors je m'inscris complètement en faux parce que, bon, moi quand j'ai appris les scouts de Riomont, il n'y avait pas grand monde, c'était juste après 1968. Et bien actuellement, on a des familles exceptionnelles, des grandes familles qui mettent leurs enfants dans le scoutisme et au contraire, il y a un frémissement depuis une dizaine d'années et on est très très content de ces familles catholiques très nombreuses, quelquefois qui ont 10, 12 enfants et qui nous mettent leurs enfants au scout.
L'ESPAI, un auditeur vous assure que l'ESPAI existe encore, je pense à Valence.
Oui, c'est vrai, nous sommes jumelés avec le premier ESPAI à Valence, et vous avez absolument raison de le dire. Et ça dépend un petit peu des colonels, qui acceptent ce parrainage et d'autres un peu moins. Mais nous sommes allés rendre visite à Valence, au ESPAI. Et du reste, les manteaux des religieux de Riomont sont faits avec le tissu des manteaux de ESPAI de Valence.
Et un auditeur vous dit tout à fait d'accord pour l'impression que les Africains ont menti au procès du Père Lefort. La bonne question est de savoir qui les manipule. Question, les évangéliques.
Oui, ça, c'est plutôt à moi que ça s'adresse. Et le fait est que la manipulation sur les jeunes est une histoire extraordinairement compliquée. Je suis désolé, je ne voudrais pas avoir l'air de faire la publicité pour le Libre Journal, mais c'est justement le sujet du grand papier qu'on publie. On explique quels sont tous les intérêts, c'est très très complexe, tous les intérêts qui sont en cause dans cette affaire, et il y a notamment les sectes évangélistes, pas évangéliques, mais évangélistes, qui jouent un rôle particulièrement... Alors lui, particulièrement répugnant dans cette histoire, parce que derrière, il y a aussi tous les intérêts, géostratégiques américains qui avancent masqués par les sectes évangélistes. C'est une histoire assez abominable.
Mon père, redites-nous où il faut vous écrire pour vous adresser des dons pour le village d'enfants. Là, c'est pas le village d'enfants, c'est pas le village breton.
Ah, c'est embêtant, mais il faut tout le temps donner des
j'ai touché, parce que c'est vrai qu'on vit grâce aux dons. Sans dons, on peut pas avancer. Et puis, la mise en sécurité, l'église, etc. Alors, village d'enfants de Riomont, R-I-A-U-M-O-N-T, boîte postale 28. 62 801 Liévin. Si vous faites un don, vous avez droit à recevoir tout de suite la revue qui est Citadelle de l'Espérance.
C'est belle, hein.
Qui est une revue qui raconte ce qui se
super
passe.
Super luxe. Presque aussi beau que chez nous. Certains journaux.
Moi, je l'ai lu en même temps. Enfin, en même temps que j'avais reçu le Libre Journal, s'il y en a du souci à se faire.
Hein. Ah oui, mais ils ont les moyens, si vous voulez.
Bah oui, ils n'arrêtent pas de demander de l'argent.
La couleur, machin.
Ah oui, en fait, la couverture en couleur, on va dire, vous vous rendez compte, c'est un contre-témoignage, etc. La couverture en couleur est payée par la porterie. C'est le frère Olivier qui fait passer ça dans ses frais. On bénéficie du système actuel. Donc, c'est gratuit pour nous, là. Donc, là, vous voyez. On peut faire des belles choses en se servant.
Moi, j'ai pas de porterie, alors bien sûr, je viens de me contenter.
Et frère Olivier, pour ça, il fait passer ça dans
Olivier,
ses frais.
Je ferai travailler chez moi. Je le paierai pas, mais je ferai travailler. N'est-ce pas, mon cher Marquis?
Mais là, vous n'avez pas dit l'intitulé du chèque.
Alors, si
il y a
vous
trois,
voulez...
Redis trois
tout. Non, mais redis Serge, tout, parce que à chaque cœur. Fois, il y a des gens qui téléphonent. Non, mais
si vous temps. Voulez donner aux enfants.
Voilà.
Les enfants. Ça servira uniquement aux enfants. Et Madame Canet, la comptable, elle m'écoute pas, mais je lui dirai, j'ai parlé pour elle. Association Notre-Dame de Riomont, pour les enfants. Association Notre-Dame de Riomont.
Voilà.
Pour l'église. Qui
la construction de l'église.
Construction de l'église.
Qui construit une église.
Voilà, fait. Avec un clocher, etc.
Parce qu'il n'y en avait pas assez en France.
Sainte-Croix de Riomont. L'église, c'est Sainte-Croix de Riomont. Si vous faites un énorme don, on est capable, presque de vous mettre votre nom avec un blason. Enfin, je sais pas, on s'arrangera.
Ouais, enfin,
comme autrefois, d'ailleurs, comme faisait le père Brottier.
Oui, bon, dans le vitrail.
Voilà.
Bien sûr.
Et je passe parce que il y a d'autres qui sont après moi. Et maintenant, si vous voulez donner pour le Gerveur. Voilà.
Ah, le Gerveur.
Alors, on sort une plaquette de toute beauté sur le Gerveur.
Oui, mais ça, vous le promettez depuis.
Oui, ça fait un an, je sais, Serge. Oui.
Ça fait un an.
Mais la dernière fois, je suis serré pour faire sortir la plaquette. C'est marrant parce qu'on mettait la photo et ça sortait blanc. Et alors le monsieur qui était à Lens me disait, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, je dis, c'est le diable. Il me dit, mais oui, bénissez ma machine, il me dit. Mais j'ai jamais vu ça. Ça fait un an que je travaille ici. J'ai jamais vu sortir de cette machine du blanc.
Et alors, vous l'avez béni?
Ben non, je l'ai pas béni parce que j'ai pas d'eau bénite. Alors, je vais retourner. Alors.
Et le garveur?
Donc, le garveur.
Confiance.
On peut faire une fin de bénédiction à blanc. Il faut être sérieux.
Oui, bon, mais c'est pas la peine puisque ça sort blanc.
C'est des fers blancs.
Et donc, le garveur, scout et guide de Riomont. Ben, c'est le village des scouts. Scout et guide de Riomont. Voilà.
Mais attendez, vous allez pas vous en tirer comme ça. Vous croyez que vous allez pas pouvoir, vous allez faire avaler à nos auditeurs que la machine sort le truc en blanc et que vous pouvez pas leur envoyer la plaquette?
Oui, bah oui, oui, parce que je vous dis, je vais pas vous raconter ce qui est arrivé à cette plaquette depuis un an, mais vraiment, bah, c'est tout, c'est comme tout le monde le sait. Par contre, j'espère que chez vous, demain matin, vous allez recevoir un prototype de la plaquette et que je pourrai montrer.
Bon, si je reçois deux feuilles blanches,
au Secours de France. Normalement, vous devriez recevoir le prototype demain.
C'est pas grave, la radio est pas en couleur.
Voilà. Oh, est-ce que je peux faire un appel?
Mais ça nous changera.
Voilà. Je viens à Paris de temps en temps. Je prends la radio Courtoisie. Je viens pour évidemment trouver de l'argent pour démarcher. Est-ce que quelqu'un aurait une chambre du côté de la gare du Nord par là, parce que j'aime bien ce quartier, pour moi, parce que évidemment c'est pas toujours facile de loger. Voilà, une chambre avec une clé où je puisse dormir. Voilà.
Au gaz, électricité, pas de téléphone, il a son portable.
Non, mais ça va, y a pas de problème. Voilà, c'est tout.
Mais merci, mon père.
Serge.
Où est-ce qu'on vous contacte pour vous dire portable, j'en ai une, le fameux numéro du portable.
Voilà. Alors les auditeurs qui m'ont entendu, surtout ne m'insultez pas. Après, ça me fera du mal.
Si, non, mais ils ont le droit quand même.
Oui, il y en aura peut-être. Non, mais je prierai pour eux parce que je suis prêtre catholique et je prie pour mes ennemis.
Alors,
voilà, merci.
À quand demande l'auditeur encore. À quand Radio Courtoisie audible en Bretagne? Si nous étions entendus là-bas, le père Arguache trouverait encore plus de bonne volonté.
Mais il est audible en Bretagne. C'est audible en Bretagne.
Par Internet,
je crois.
Par TPS, par Internet, il n'y a pas de problème. Oui, voilà.
Pour écouter Radio Courtoisie sur Internet, tv-radio.com.
Voilà.
Et puis envoyer des sous à Radio Courtoisie pour que Radio Courtoisie s'étende.
Et puis, votre association, mon père, votre association est-elle reconnue d'utilité publique?
Ah non, absolument. Absolument pas, mais on fait des reçus.
En d'autres termes, les dons qui vous sont faits sont-ils déductibles?
Oui, ça n'a rien à voir.
Absolument. Ça n'a rien à voir.
Quand on vous fait un don, ça va à, comment ça s'appelle?
À la Fondation des Monastères qui prend 5%, mais les 5% qui sont prises sur une grosse somme, ça fait rien du tout et ça part encore pour d'autres monastères. Voilà.
Très bien, je suis content de savoir ça.
C'est une mafia.
Voilà, et autrement, il y a des dons, des reçus qui sont faits, il n'y a pas de problème. Et pour ça, c'est très bien fait. Chaque fois, on envoie les reçus.
Oui, voilà. Je peux témoigner.
Faites-moi confiance. Merci, mon père.
Voilà. Et ben aujourd'hui, je suis content parce que j'ai pu parler de ce qui me tient à cœur et voilà, je suis très touché.
Passer à la caisse en sortant quand même parce que après tous les sous qu'on vous fait avoir.
Oui, il y a une affaire à monter.
Vous savez, c'est grâce à vous qu'il y a eu une vocation qui est arrivée à Riomont quand même. Donc le jour de l'ordination l'année prochaine, parce que ce garçon vous a entendu à Radio Courtoisie, il est venu chez nous grâce à vous. J'espère que vous serez là à son ordination.
Voilà. Bah, j'espère que je serai là, oui, parce qu'on
aura deux ordinations l'année prochaine.
Jusqu'à présent, on s'est pas vu beaucoup ces temps-ci. Hein. Je le regrette, mais enfin, je suis plus en âge de diriger une troupe, ni même d'être cisaignier. Alors, parce que les louveteaux, quand même, c'est plus tellement de mon âge. Je ne sais pas si je tiendrai le coup longtemps. Déjà, avec mes petits-enfants, au bout de 10 minutes, ça me fatigue. Alors, enfin, bref, voilà. Merci, mon père, encore. Et puis,
bravo,
à tout bientôt. Michel de Gégère, vous allez nous expliquer ce qui va se passer à l'université d'été de Renaissance catholique. C'est la quantième, là, ça doit être là. Moi, j'ai l'impression que je suis né là-dedans. Donc...
On a commencé en 1992.
Ah, bah oui, c'est ça.
Alors, ça fait.
C'est
ça. C'est la 14e.
Ça fait 14 ans, ouais, c'est ça. À peu près ça. Et celle-là, elle est consacrée à quoi?
Elle est consacrée à la pensée unique, ce qui est un vaste programme, parce que la pensée est unique, mais elle est quand même multiforme. On est parti de l'idée que, bon, un des phénomènes les plus intéressants de notre temps, c'était le politiquement correct, cette espèce de dictature molle qui fait que on ne cesse de parler de liberté et puis on a de moins en moins le droit de dire des choses. Et on a constaté une bizarrerie, c'est que le politiquement correct, cette expression, elle est venue des États-Unis dans les années 90, et en gros, elle désignait l'antiracisme, c'est-à-dire qu'en gros, aux États-Unis, on a établi une espèce de code de ce qui était politiquement correct de dire et de ne pas dire, et en gros, ce qui était politiquement incorrect de dire, eh bien, c'est de tenir des propos racistes, ségrégationnistes, ou tendant au racisme, tendant au ségrégationnisme, ou établissement des différences entre les races et les ethnies. Donc c'était à peu près clair. Et puis c'est venu en France, et puis on s'est mis à parler de pensée unique. Alors pensée unique, ça désignait plutôt la mondialisation de l'économie, la nécessité d'ouverture des frontières pour que le capitalisme international se déploie dans toutes ses conséquences, dans toute son amplitude. Alors bon, on savait à peu près ce que c'était que la pensée unique, à peu près ce que c'est que le politiquement correct. Et puis alors, il y a eu des détournements, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu, il y a un certain nombre de gens totalement, qui sont tout à fait politiquement corrects, qui ont commencé à dénoncer le politiquement correct de leurs adversaires. C'est-à-dire que c'est devenu une insulte à double tranchant. Et vous voyez, si vous voulez, vous avez des gens, mettons, de gauche, qui considèrent que la pensée, quelqu'un qui parlerait aujourd'hui comme Louis Veuillot serait politiquement correct. Donc c'est un espèce de retournement complet de ce que voulait dire au départ l'expression. Et puis on s'est aperçu petit à petit que tout ça devenait de plus en plus compliqué, parce qu'il y avait de plus en plus de choses qui étaient politiquement incorrectes, qu'on n'avait pas le droit de dire. Parce qu'au départ, donc, il ne fallait pas être raciste, on a bien compris. Il ne fallait pas être contre la mondialisation de l'économie, on avait compris. Et puis, ça s'est diversifié. Par exemple, vous avez eu l'affaire Bouttiglione en 2004.
Il ne faut pas être contre l'avortement.
Où Rocco Bouttiglione a dit une chose qui a scandalisé, c'est qu'une famille, c'est ce qui permet à une femme d'avoir des enfants avec son mari. Ouais. Elle a dit que ses propos inqualifiables lui interdisaient d'être commissaire européen. Alors, on s'est dit, donc le politiquement correct gagne. C'est-à-dire, il y a des choses qui n'ont plus rien à voir avec l'antiracisme, qu'on n'a plus le droit de dire. Et puis, vous avez eu quelque chose comme l'affaire Mel Gibson, où on a expliqué que le film de Mel Gibson était intolérable parce qu'il montrait que, mettons, le Sanhédrin, les grands prêtres juifs, avaient joué un rôle dans la condamnation à mort du Christ.
Ridicule.
Alors jusque-là, on croyait savoir que ce qu'il ne fallait pas dire, c'est ce que disaient les pères de l'Église, c'est-à-dire qu'il y avait une espèce de responsabilité collective qui s'étendait à tous ceux qui étaient dans le peuple juif, restés fidèles au judaïsme, enfin restés fidèles, étaient aux yeux des catholiques infidèles en n'ayant pas reconnu le Messie, ça on avait compris. Mais maintenant, même le fait de dire que on croit, comme la lettre des évangiles l'affirme, que les grands prêtres juifs ont demandé la mort du Christ et l'ont exigé, ont joué un rôle moteur dans sa condamnation, ce qui est vrai, il suffit de lire les quatre évangiles, ils disent tous la même chose là-dessus, bon, est devenu politiquement incorrect. Ouais. Petit à petit, on s'est aperçu donc que c'était une espèce de dictature qui est devenue multiforme et que c'est un petit peu dans tous les domaines. Il y avait des choses qu'on avait le droit de dire, des choses qu'on n'avait pas le droit de dire. Donc on s'est dit qu'il fallait consacrer une université d'été à cette question en décomposant le politiquement correct, je dirais, dans un maximum de disciplines.
Mais en même temps, si vous me permettez, il n'y a pas d'absolu. C'est-à-dire, il y a ce qu'on a le droit de dire, et puis il y a donc ce que l'on dit, première chose, et deuxième chose, d'où on le dit. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont le droit de dire certaines choses.
Parce qu'en fait, il y a des gens qui sont politiquement incorrects par essence.
Par essence.
Voilà. Peu importe leurs propos.
Voilà. Ouais.
Il y a des gens qui sont politiquement intouchables, enfin, quelque part.
Je lisais tout à l'heure sur Internet une interview de cette Italienne,
Oriana Fallaci.
Oriana Fallaci. Qui ne peut pas retourner en Italie, puisque si elle retourne en Italie, elle risque d'aller en prison. Qui vit aux États-Unis et qui était tout étonné de dire, enfin tout étonné de ce qui lui arrive, en disant je ne peux pas retourner dans mon pays, moi qui ai toujours combattu pour la liberté d'expression, et je ne peux pas retourner dans mon pays parce que dans mon pays je risque d'être arrêté parce que j'ai dit ce que je pensais de l'islam et moi j'ai pas le droit de le dire. Et pendant ce temps-là, il y a en Italie une femme, une islamique, qui elle dit ce qu'elle pense de l'islam et qui dit des choses que si elles étaient dites par Falaschi ou par votre serviteur, la conduirait et nous conduirait directement en tôle. Mais elle, comme elle appartient au sérail, elle peut dire les choses.
Oui. Et ça, j'avais entendu ça dans la bouche de Philippe Tesson parlant de Chirac au moment de, où c'est, Chirac avait dit les odeurs, l'exaspération des Français à cause des immigrés, vous rajoutez le bruit et les odeurs. Alors ça avait scandalisé. Il y avait eu une, on avait réuni un sérail de journalistes à France Inter qui pensaient tous plus ou moins la même chose, et donc ça permettait de débattre. Et on a demandé à Philippe Tesson ce qu'il en pensait en disant que Chirac avait fait preuve de racisme. Il a dit non, parce que les mêmes mots dans la même bouche, dans deux bouches différentes, ne veulent pas dire la même chose. Alors, si Le Pen avait dit ça, ça serait raciste. Mais dans la bouche de Chirac, qui a donné par ailleurs tellement de preuves de son antiracisme, ces mots n'ont pas la même signification.
Mais regardez, Oriana Fallaci, elle s'est crue totalement immunisée dans la mesure où elle a un passé d'écrivain de gauche la plus extrême. À partir de là, elle pensait qu'elle pouvait tout dire, puisqu'elle était, elle avait respecté la Vulgate pendant des années.
Big mistake.
Et d'un seul coup, ça lui tombe sur le coin du nez.
Oui, ça lui donne de couleur, c'est pas forcément mauvais, mais le fait est qu'il y a des choses qu'on a le droit de dire si on est quelqu'un, qu'on n'a pas le droit de dire si on est quelqu'un d'autre. Mais on va en parler d'ailleurs avec Pierre Descartes
ça,
tout à l'heure.
Des nuances.
Mais c'est tout à fait intéressant. Je ne sais pas comment se débrouillent les magistrats. Moi, j'attends le résultat du procès qui m'était intenté pour le 7 juillet. J'attends le résultat. Et je suis curieux de savoir comment ils vont se dépatouiller de cette histoire.
Prenez-vous place.
Ils me poursuivent pour un texte qui a été publié dans un document dont je ne suis pas le responsable. Et qui ne dit rien d'autre que ce qu'ont dit les 5 présidents de la République avant moi. Mais enfin, on va voir. C'est intéressant.
Mais le jour de votre procès, c'était exactement la démonstration qu'il y a de faire M. de Jachère. On nous a cité Valéry Giscard d'Estaing, je ne sais plus qui. Alors oui, eux, c'était pas grave. Et vous, c'est très grave.
Oui, c'est quand Giscard dit l'immigration a pris la forme d'une invasion. Voilà. Lui, il peut le dire. Mais vous, pas.
Parce qu'il a donné des gages. Des gages de quoi?
Donc ça, c'est intéressant parce que normalement.
Enfin, il peut le dire jusqu'à un certain point. Il peut le dire. On ne le traîne pas devant les tribunaux parce qu'on va pas. Mais enfin, tout de même, ça compte dans sa case débit, à mon avis.
Il faut pas qu'il insiste de trop.
La conséquence de ça, c'est qu'on en arrive à la situation Sarkozy. C'est-à-dire que moi, je n'ai absolument rien pour Sarkozy. Bon, je pense que c'est un fantaisiste et un sauteur. Mais le fait est que, par exemple, quand il dit on va nettoyer la Courneuve. Bon, c'est le moindre des choses. Ça fait des années et des années qu'on sait que la Courneuve, c'est un cloaque immonde, avec de la drogue, de la prostitution, tout ce qu'on peut imaginer. Il dit, on va nettoyer ça, c'est vraiment... Ben, enfin, quelqu'un existe. Immédiatement, des gens qui se sont jamais occupés de se soucier de la situation de la Courneuve...
Je ne sais même pas où c'est.
Alors, quand il a dit nettoyer, on dit, mais comment, de quel droit peut-il dire nettoyer, etc. Le crime, ça devient le mot. On est dans une situation, dans une civilisation, ou dans une société nominaliste. Parce que tant qu'on n'emploie pas le mot, tout va bien. Mais si on emploie le mot, alors là, c'est un crime abominable. Or ça, le nominalisme, c'est quand même le péché absolu, enfin le péché irrémissible.
Et depuis ce matin, le grand débat dans les radios, puis dans les émissions des week-ends, ça va être Sarkozy est-il populaire ou populiste? Ça, c'est parti là-dessus.
Voilà. Ouais.
Mais oui.
Alors donc, ça sera le grand. Enfin, ça, c'est autour de ça que va tourner l'université.
Oui, c'est-à-dire que donc on a décomposé ça en une dizaine de conférences où seront traitées la question du qu'est-ce que c'est que le moralement correct, le religieusement correct, le géopolitiquement correct, le pédagogiquement correct, l'historiquement correct, économiquement correct. Ça commence d'abord par une avant ces conférences par un essai de définition de la pensée unique et de par Martin Pelletier et une conférence historique. Que je pense que vous avez déjà en tête, puisque c'est une conférence de Serge de Becquetch sur le politiquement correct de Cicéron à nos jours.
J'ai découvert que...
Une fresque.
Le concept de politiquement correct, il est dans Cicéron.
Vous m'avez fait peur, j'ai cru que vous veniez de découvrir que vous aviez cette conférence à faire dans 3 semaines.
Vous avez oublié le maçonniquement correct, vous savez, ça compte aussi.
Oui, mais je pense que le maçonniquement correct recoupe un certain nombre de...
Si on entre, alors on va finir par dire des choses désagréables, donc on s'en abstiendra. Mais, non, c'est vrai que ce qui est extraordinaire quand on travaille cette question, moi j'ai découvert ça tout à fait par hasard un jour. Je trouve que pour me détendre, je fais des versions latines.
Oh, c'est
des... attendez, il y a des gens qui font des mots croisés, moi je fais des versions latines, chacun s'occupe comme il veut, j'ai une batterie de dictionnaire. Et un jour je vois le mot politiquement correct sous la plume de Cicéron. Oui, alors, j'étais quand même stupéfait parce que on pourrait penser que à l'époque c'était pas. Ben non, si ça existe, voilà, c'était. Je me suis dit, mais donc déjà à cette époque, il y avait des choses qu'on avait le droit de dire dans certaines circonstances, d'autres qu'on n'avait pas le droit de dire, et qu'on avait le droit de dire si on était quelqu'un, et qu'on n'avait pas le droit de dire si on n'était pas cette personne-là. Et dans le cas de Cicéron, c'est absolument frappant parce que c'est un personnage extraordinairement controversé déjà à son époque. En plus, c'est un avocat, c'est Vergès, hein. C'est Vergès, c'est-à-dire que il se permet de prendre la défense du même personnage avec la même virulence qu'il a prise pour l'attaquer 2 ans plus tôt. C'est fabuleux, je trouve. C'est... Et alors, il y a... Ces plaidoiries sont admirables. Voilà. Et je me suis dit, mais ça mérite quand même qu'on s'y arrête une seconde, parce que il y a toujours eu une espèce d'ordre social de... Comment dirais-je de... qui échappe à toutes les catégories de la morale, en fait. C'est ça, la question. C'est que il faut respecter l'ordre de la société, fût-ce en écrasant les principes moraux élémentaires.
Oui, c'est-à-dire que la particularité quand même de notre époque, c'est que l'ordre est un désordre. Et qu'en plus, c'est une société qui ne cesse de se revendiquer de la liberté comme de son principe fondateur. Ouais. Et où on est moins libre que dans beaucoup de sociétés où on n'en parle pas. On en parle toujours parce qu'on la pratique très peu.
C'est quand même extraordinaire. Là, récemment, quand on entend Hollande qui dit je ne viendrai pas à l'invitation de monsieur Villepin parce que il a invité le Front National et que le Front National ne doit pas être. Alors c'est des mecs qui nous cassent les passez-moi l'expression, les oreilles une fois de plus et beaucoup plus bas encore à longueur de journée avec les principes moraux de la démocratie en disant la démocratie c'est la solution à tout. Oui. Faites des élus, ils sont les représentants du peuple, ils ont droit à tous les égards. Alors on leur dit, ben voilà, il y a des élus, là, des élus de la droite nationale.
Pas eux.
Hein? Donc, le représentant, l'interlocuteur normal des élus, c'est l'élu des élus, c'est-à-dire le président de la République et les gens qui délèguent. Eh ben non, ceux-là, il faut pas leur causer. Et si on pousse un peu le raisonnement, on se dit que la solution, c'est évidemment l'insurrection.
Ben évidemment.
Parce qu'à partir du moment où on a fait toutes les démarches pour accréditer l'idée qu'on acceptait le principe démocratique. Ce qui n'est pas mon cas, je le précise, mais enfin bon, moi, malheureusement, je peux pas réunir 12 700 miliciens pour foutre le système en l'air, donc je suis obligé de m'en contenter. Mais en tout cas, Le Pen, il a toujours été candidat à toutes les élections, il n'a jamais pris un fusil, il n'a jamais pris... Sauf quand il était payé par le parti... Payé, enfin, quand il était chargé par les socialistes de faire la guerre dans l'armée française. Voilà, bon. La seule fois où il a porté un fusil, c'était sur ordre des socialistes. C'est quand même extraordinaire. Merde, quoi. Et on nous dit que c'est un fasciste, mais ils sont malades ces types. Bon, eh bien, quand vous dites ça, je ne peux pas tolérer les décisions que vous prenez parce qu'elles sont contraires à l'ordre, au principe de la démocratie. On vous dit, mais vous n'êtes pas démocrate. Et on vous dit, la preuve que vous n'êtes pas démocrate, c'est que vous votez pour des gens qui ne sont pas démocrates. Et qui sont élus d'une façon démocratique. Bon. Il y a un moment, on fatigue un peu. Et on voit que c'est un principe qui existe depuis toujours et qui n'a cessé de se perpétuer dans l'histoire. Et c'est très intéressant le travail que je suis en train de faire là sur la recherche des antécédents du politiquement correct. C'est formidable parce qu'on découvre que ça a toujours existé et c'est toujours associé au mensonge. Oui, ça aboutit toujours à des catastrophes. Les guerres de religion, c'est un effet direct du politiquement correct. On peut le démontrer d'une façon assez simple. C'est des gens qui disent pas la vérité. Comme ils ne préviennent pas, comme ils ne disent pas, attendez, on peut pas accepter ça parce que c'est intolérable. Eh bien, tout le monde s'engage dans ce chemin et ça finit par une catastrophe. Parce qu'il y a un moment où il est évident que le mensonge prévaut. Quand, en face du mensonge, que je disais tout à l'heure, quand la démocratie est bloquée, eh bien, il reste l'insurrection. Je pense que c'est intéressant cette... cette série de conférences. Ça va durer combien de temps?
Ça dure 4 jours. Ça se déroule du dimanche 17 au mercredi 20 juillet 2005. C'est à Villepreux, dans le très beau domaine de M. de Saint-Seine.
Alors, en plus, si les conférences ne vous intéressent pas, il y a la campagne autour quand même qui vaut la peine.
Qui est à côté de Versailles. C'est à 20 km de Paris et tout à côté de Versailles. Et donc, parmi les conférenciers, donc Serge de Becquetch, Martin Pelletier, le docteur Dickès qui viendra parler de moralement correct, puisqu'il y a des nouvelles règles morales qu'on ne connaît pas forcément, et il est intéressant de les connaître. Aymeric Chauprade qui viendra parler de la géopolitique. Olivier Pichon qui traitera le thème pédagogiquement correct, c'est-à-dire la pensée unique à l'école. Et une conférence, oui, dont je n'ai pas parlé, qui est un peu nouvelle, c'est artistiquement correct. C'est-à-dire que aujourd'hui, Olivier Madelin, qui est un architecte et un peintre, qui a la particularité d'avoir fait l'école des beaux-arts dans deux sections. Il l'a fait d'abord dans les sections architecture et ensuite peinture. Et il en a retiré une expérience amusante. C'est-à-dire qu'il a compris que l'école des beaux-arts était faite pour vous interdire d'apprendre à dessiner, à peindre. Si vous voulez, un détail qu'il m'a raconté, mais il s'étendra plus dans sa conférence, il y a à l'école des beaux-arts toutes sortes de moulages, de statues anciennes, etc., sur lesquelles traditionnellement les étudiants des beaux-arts apprenaient à dessiner, ils venaient dessiner, etc. Bon. Et tout ça était enfermé à la cave sous clé. Et avec, quand il était étudiant, avec un ami, ils étaient arrivés à faire un double de la clé et aller de nuit avec des lampes dans cette cave pour dessiner. Alors finalement on les a trouvés, punis sévèrement, parce que ce qu'il fallait présenter à l'examen c'était une serpillière punaisée sur une planche parce que c'était innovant, etc.
J'aurais fait les beaux-arts quoi.
Donc si vous voulez, voilà, quand on voit ce qui est devenu l'art moderne aujourd'hui, c'est pas venu de façon spontanée et c'est pas venu tout seul, il y a quand même eu une espèce de chape, de cadrage qui a été fait dès l'origine pour empêcher ce type d'expression. J'ai entendu parler aussi d'un étudiant pour son chef-d'œuvre. À la fin de l'école, vous devez faire une série de toiles que vous devez présenter à un jury. Et donc, c'était un étudiant qui était passé à travers les mailles et qui avait fait de l'art figuratif. Et il avait montré une de ses toiles à un de ses professeurs et en l'amenant, il l'avait roulé et il y avait des plaques qui s'étaient détachées. Donc, le professeur lui avait dit, j'aime beaucoup ça, en montrant les plaques qui s'étaient détachées. Et donc, à la veille deux heures avant l'arrivée du jury, il a pris peur et il a pris toutes ses toiles et il les a frottées contre le sol pour les gratter, les abîmer, et il a eu son diplôme grâce à cette opération. Voilà. Donc si vous voulez, il y a des petites choses comme ça qui sont amusantes.
Un point de détail, si vous assistez un jour à un cours au Conservatoire National d'Art Dramatique quand on étudie comment jouer Rodogune ou Andromaque, vous allez voir ce que c'est.
Oui, j'imagine que c'est la même chose, voilà. Alors après, quand on nous explique qu'il faut s'émerveiller du musée des arts premiers, il n'y a pas de tout ça, il y a une certaine cohérence finalement dans tout ça. Donc ce qu'on voudrait montrer à travers cette série de conférences, c'est que d'abord notre société n'est pas aussi libre qu'elle le proclame, et puis qu'il y a des règles non écrites. Qui s'impose à nous, s'impose à notre réflexion, s'impose à notre pensée, et qu'il est bon de les connaître pour pouvoir les combattre.
Alors ça se passe donc, on a dit
du 17 au 20 juillet 2005
à Villepreux,
donc,
tout à côté de Paris. Hein,
c'est tout à côté de Paris, ça veut
vous
dire
avez
que
mis en route tout le système des navettes qui vont chercher les gens.
Alors il y a toutes sortes de choses. Il y a une usine à gaz pour s'assurer qu'on ne perd personne, a priori. Bon, évidemment, le fait que ça soit en région
parisienne. Si on veut se débarrasser de sa belle-mère, c'est pas là qu'il faut l'inviter.
Normalement, on n'a encore jamais perdu personne. Ensuite, effectivement, le fait que ce soit en région parisienne, c'est que pour les gens de la région parisienne, il n'y a pas besoin d'hôtel, donc ça permet d'avoir des prix un petit peu cassés, avec aussi un système d'entraide qui permet aux provinciaux de venir un peu coucher chez les Parisiens. Mais il y a également la possibilité de louer dans des hôtels. Donc il y a différentes formules avec des prix très différents.
Alors, c'est évidemment simple, formule compliquée.
Il n'y a que des formules compliquées.
Ça sera dans le Libre Journal.
Ça tourne, en gros, ça tourne de 125 à 145 euros ou 150 euros dans ces eaux-là, avec des formules faits 1, 2, 3, ABC, avec hôtel, sans hôtel, petit hôtel, moyen hôtel. C'est un forfait qui couvre les 4 journées avec une pension complète. Quoi, voilà. Et l'hôtel pour certaines formes.
Alors, pour simplifier, on va dire à nos auditeurs s'il y a une adresse internet et un téléphone pour... Alors, il vous reste une minute pour donner au moins le numéro de téléphone.
Alors, le numéro de téléphone, c'est le 01 46 62 97 04. 01 46 62 97 04. L'adresse, c'est Renaissance Catholique, 89 rue Pierre Brossolette, 92 130 Issy-les-Moulineaux. Et alors, l'adresse internet, je la connais pas.
On demandera à Daniel de la
Je précise que comme on s'adresse aux familles, il y a une garderie très bien faite avec des jeunes filles formidables, des activités pour les enfants. Il y a par ailleurs des activités amusantes, des soirées. Il y a une soirée bavaroise en l'honneur du pape Benoît XVI avec bière et choucroute à volonté. C'est tout ça est assez sympathique et amusant. Honnêtement, c'est une façon de se former, de s'instruire de façon agréable, familiale et catholique. Et je crois que nous en avons tous bien besoin.
Merci Michel. Très bientôt, puisqu'on se retrouvera là-bas.
Serge, comment dit-on politiquement correct en latin ?
Eh bien, je vous le dis après la coupure.
Voici tout de suite la seconde partie du Libre Journal de Serge de Beketch, l'émission d'hier soir. Très bonne nuit à tous. Vous écoutez Radio Courtoisie. Il est 3h30.
Radio Courtoisie,
la radio libre du pays réel
et de la francophonie. Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Beketch avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 29 juin 2005 de 18h à 21h, en différé jeudi 30 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par télécopieur au 01 46 51 21 82.
bien, nous reprenons l'antenne. Comme disaient les gens qui capturaient les papillons. Je crois que nous avons quelqu'un au téléphone. Non, pas encore. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On attend. On verra. Alors, je m'attends. Oui, il est là. Ah bah, pardon. Enfin, vous savez, je suis pas un vrai pro, alors je maîtrise mal. Allô?
Oui, allô?
Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? C'est monsieur Louis-Henri qui nous parle.
Oui, tout à fait. Bonsoir, monsieur.
Monsieur Louis-Henri, je vous appelle parce que je voudrais que vous nous fassiez un petit compte-rendu d'une réunion, d'une manifestation qui a eu lieu récemment et où Radio Courtoisie a été évoquée avec beaucoup de bénéfices pour nos auditeurs quand même.
Et à ce propos, permettez-moi de vous interrompre deux secondes.
J'ai l'habitude, oui.
Je sais que vous avez l'habitude. Ne dites pas tout dans la mesure où il faut que les auditeurs découvrent, parce qu'ils sont évidemment très fidèles à Radio de Courtoisie, quelle a été la personnalité éminente.
Mais bien sûr, je n'allais pas tout dire.
Qui est passé sur Radio Courtoisie.
Mais pas totalement idiot.
Voilà.
Alors racontez-nous ce qui s'est passé.
Alors écoutez, il s'agissait donc du prix du Presse Club Humour et Politique 2005. Comme vous le savez, le savent sans doute les auditeurs, il est attribué chaque année au moment de la distribution des prix dans les lycées et collèges à la personnalité politique française qui aura prononcé la phrase la plus brillante de l'année ou la plus hilarante, qu'il s'agisse indistinctement du mot volontaire ou involontaire. Alors, si vous voulez, je peux vous donner le nom des membres du jury.
Oui.
Alors, vous avez Christophe Barbier, de l'Express, André Bercoff, François, qui est en même temps président, comme vous le savez, de l'association du Presse Club, Hubert Goudurier, Télégramme de Brest, Pierre Douglas, François Grangier de l'AFP, Anita Auxerre, LCI, Emmanuel Delataille, Radio Notre-Dame, président d'auteur d'honneur du Presse Club, Bernard de la Villardière, MC, François Laborde, France 2, on arrive au bout, là. Jacques Maillot, Jean Mio, Figaro, président du jury, Dominique de Montvalon, Le Parisien, Catherine Mignot, Europe 1, Catherine Ségard, Le Point, Philippe Reynard, Le Télégramme de Brest, Michel Stouvenot, Le Journal du Dimanche, et Dominique Verdeillant, France 2. Alors maintenant, si vous voulez, je vais vous donner donc, par ordre alphabétique, les noms des nominés et la boutade, le trait d'humour ou la perle qu'ils ont formulée. Alors ça commence par Michel Barnier. Que l'on soit pour ou contre la Turquie, on ne pourra pas changer l'endroit où elle se trouve.
Voilà.
Jean-Luc Benamias, élu vert. Le miracle permanent des Verts, c'est que les gens nous attendent encore pour refaire le monde.
Oui, c'est
Malik Boutier. Là, j'ai la prononciation adéquate.
Oui.
À propos de la venue de Jospin au congrès du PS. Ça fait toujours plaisir de revoir ses grands-parents. Jean-Louis Debré, après la réception de la délégation des Jeux Olympiques. À l'Assemblée, on s'occupe des JO et on laisse les Jeux Paralympiques au Sénat. Alors je continue à citer toujours, alors j'espère que les auditeurs sont vigilants pour trouver encore une fois la personnalité qui est passée sur Radio Courtoisie. Marie-France Garraud, à propos du référendum. Nous sommes entre femmes et nous savons bien qu'avant de dire oui, il faut toujours dire non. Hervé Guémard, je n'ai pas le sentiment de tromper ma femme quand je suis avec la France. Valérie Giscard d'Estaing, alors là il y a deux citations. La première, c'est une bonne idée d'avoir choisi le référendum à condition que la réponse soit oui. Et parlant du projet de constitution européenne, c'est un texte facilement lisible, limpide et assez joliment écrit. Je le dis d'autant plus aisément que c'est moi qui l'ai rédigé.
Ah ça je sais qui c'est.
Eh ben c'est Giscard qui a dit.
Eh ben oui, c'est pas difficile.
Eh ben oui. Ensuite, Robert Rue, si Bush et Thatcher...
C'est pas mort, lui.
Alors, Robert Rue, si Bush et Thatcher avaient eu un enfant ensemble, il l'aurait appelé Sarkozy. Pas mal.
C'est pas mal, quand même, oui.
François Loncle, député PS de l'Eure, parlant du Premier ministre Dominique Gamzot de Villepin, il porte un nom de cheval, mais il ne l'a jamais couru. C'est gentil. Bernard Poignant, parlant de Fabius, l'an dernier, les carottes étaient râpées, cette fois elles sont cuites. Jean-Pierre Raffarin, les veuves vivent plus longtemps que les conjoints, que leurs conjoints.
Ah, ça c'est du grand Raffarin, ça.
Oui. Et Nicolas Sarkozy, ministre d'État, je ne suis candidat à rien. Manuel Valls, parlant du référendum, j'ai J'étais partisan du non, mais face à la montée du non, je vote oui. Dominique de Villepin, Premier ministre, en politique, il faut suivre le fil à plomb de sa conscience.
Ah, c'est droit dans ses bottes.
Voilà, c'est quand même pas mal.
Oui, c'est très bien. Alors, donc,
résultat, c'est Nicolas Sarkozy qui est arrivé en tête, suivi de près par Valéry Giscard d'Estaing.
Bon, mais ça, c'est pas... Radio Courtoisie n'est pas directement concernée dans cette...
Ah non, oui et non, parce que précisément, parmi les personnalités qui viennent d'être énumérées, on a cité indirectement Radio Courtoisie, puisque, alors, s'il faut tout dévoiler, on va le dire.
Ah ben oui.
C'est Marie-France Garraud, donc, quand elle était venue dans le cadre du Libre Journal, s'exprimer à propos du nom, qui, effectivement, avait dit, et vous devez avoir tout à fait ça sur
le moment,
nous sommes entre femmes et nous savons bien qu'avant de dire oui, il faut toujours dire non.
Donc, c'est pour un propos tenu sur Radio Courtoisie que Mme Garraud a été nominée, comme on dit élégamment maintenant.
Voilà. Donc, indirectement, Radio Courtoisie était nominée.
Donc, pour un peu, on gagnait le prix de l'humour.
Voilà, 2015.
Ben oui, Marquis, vous avez l'air... Le marquis a l'air...
Elle était à côté de moi, c'est moi qui lui ai soufflé.
Quel bêcheur, ce mec.
Vous savez que le drame dans notre pays, c'est que très souvent, le succès vient d'un malentendu.
Mais bien sûr. Écoutez, je vous remercie beaucoup de nous avoir apporté ces lumières. C'était...
Écoutez, moi, c'est moi qui vous remercie, parce que je suis quand même un fidèle auditeur. Et puis en plus, alors, histoire d'en rajouter un petit peu, je suis un fidèle lecteur du Libre Journal, que j'apprécie beaucoup, et je ne saurais trop inciter les auditeurs à souscrire nombreux, de plus en plus nombreux, au Libre Journal de Serge de Becket.
Merci beaucoup, Louis-Henri. Je reconnais bien là l'ami, et je ne manquerai pas de vous récompenser.
Pour le
chèque, c'est...
Vous direz au père Jean-Paul en passant, oui. C'est un ancien de la Saint-Dominique d'Alger.
Ah ben, je lui dirai.
Ne manquez pas.
D'accord.
Ne manquez pas.
À bientôt.
À bientôt. Au revoir. Et encore bravo.
C'est vrai que c'est incroyable, parce que Louis-Henri de Lignières, c'est... J'aurais pas dû dire son nom, mais tant pis, je l'ai dit quand même. C'est un ami de... Un ami de 30 ans, mais pas un faux ami, un vrai. Alors, en plus, il dit du bien de Libre Journal.
C'est pas mon ami à moi, parce que j'ai l'impression qu'il veut me piquer mon boulot.
Non, il a de quoi s'occuper, ça.
Bon.
Vous êtes tranquille, mon petit goff.
Il est parano.
Parano complètement.
Et par hasard, et par hasard, et tout ça.
Vous êtes très bien rasé, arrêtez.
Bonsoir, Serge de Becquet. Je salue vos invités, vos auditeurs innombrables dans le monde entier et au-delà. Et je vais leur expliquer en 2 minutes... à ceux qui n'ont pas encore compris, pourquoi il faut s'abonner au Libre Journal imprimé. Alors,
sordide.
Je me réfère au mai, juin, il y a 2 ans exactement, je suis sûr que beaucoup d'auditeurs étaient à l'écoute et s'en souviennent. C'était l'affaire Allègre à Toulouse, et M. Baudis s'était traîné dans la boue de façon absolument unanime. Et moi, je me souviens très bien, j'étais à peu près à la même place, que vous aviez absolument seul de tous les médias, gros, petits et moyens, dit que vous étiez très sceptique sur la culpabilité de M. Baudis, dont à l'époque on disait, ouais, il sue à grosses gouttes à la télé, ça prouve qu'il est coupable, etc., etc., avec une mentalité un peu médiévale.
C'est elle que pendant ce temps-là, le marquis est en train de s'éponger, on dirait qu'il a pris une douche, donc il commence à être inquiet aussi. Épongez-vous, marquis, c'est la preuve de l'innocence.
Et j'avoue que sans être masochiste, j'ai plaisir à confesser publiquement que moi-même, à ce micro, j'avais exprimé mon scepticisme sur votre scepticisme parce que j'étais à peu près convaincu de la culpabilité de Monsieur Baudis. Alors voici que le 23 juin, enfin, les choses vont être remises en ordre puisque les deux dames, Fanny et Patricia, qui l'accusaient, sont traînées devant la justice. Mais nous font remarquer nos chers confrères du Canard Enchaîné, pas de panique. Ce sont seulement ces deux prostituées qui disent qu'elles ont raconté aux journalistes qu'ils voulaient entendre, qui sont traînées devant la justice, mais surtout pas les policiers qui disent, je les cite, les policiers qui 10 ans plus tôt avaient bâclé les enquêtes, ni les gendarmes qui ont recueilli et entretenu les délires de Fanny et de Patricia, ni les journalistes qui ont popularisé leurs calomnies, ni les directeurs de TF1 et de France 2 qui ont diffusé leurs interviews, ni Carl Zéro qui a défrayé généreusement leur déplacement jusqu'au studio, non seulement ces deux dames. Il n'en reste pas moins que, à l'époque, vous étiez seul à dire que probablement, à votre avis, Baudis était innocent. Et si j'en parle, c'est que le numéro 354 du Libre Journal, que porte-t-il à la une? C'est l'accroche suivante, le procès Lefort, deux points, une cabale contre l'Église catholique. Alors, une fois de plus, je vais avoir à me confesser peut-être dans un an ou deux, parce qu'une fois de plus, je hausse les épaules, une fois de plus, je dis une péto, il est cinglé ce Bekech, et une fois de plus, je peux pas dire ça au micro, mais je dis, oh quand même, qu'est-ce qu'il raconte? Parce que moi, le procès m'a convaincu. Seulement, voilà, ceux qui commanderont le Libre Journal 354, ils trouveront un dossier de 3 pages où je dois avouer que quand même déjà je suis un peu troublé par les éléments que vous apportez et les précisions, les noms que vous donnez d'accusateurs de Monsieur Lefort qui ne sont pas très clairs eux-mêmes. Voilà, j'en reste là. Je termine le bref sommaire du numéro 354 du Libre Journal. Nous avons également un article, comme annoncé la dernière fois, sur la douce occupation de Monsieur Sartre et de Madame de Beauvoir avant qu'ils ne deviennent des résistants impeccables. Juste en août 44, ils ont quand même sabré le champagne avec les nazis et pour d'excellentes raisons. Nous avons le grand papier de François Brignot, signature historique de la presse patriotique. Et surtout, nous avons à la une photo magnifique qui sera pas, je pense, partout. On nous accuse parfois d'être sectaires et anticommunistes primaires, mais cette fois, une immense photo de une est consacrée au char T-34, non, T-62 pas davantage.
T-69,
le char du Parti communiste à la Gay Pride, c'est magnifique, il y a 2 beaux jeunes tankistes dessus, ils sont torse nu parce que tout le monde sait qu'il fait chaud.
Non, c'est pas pour ça, c'est parce que, probablement parce qu'ils n'ont pas trouvé de chemise qui fermait avec assez de boutons.
Alors voilà, et il est temps que nous intervenions, que nous manifestions moins de sectarisme vis-à-vis du PC, parce que vous devez savoir que l'humanité est en difficulté.
Oui.
Alors je vous rassure, nous ne sommes pas seuls à l'aider, puisque c'était dans Libération hier, le groupe Bouygues et le groupe Lagardère vont une fois de plus renflouer l'humanité, sans doute parce qu'elle prépare une révolution absolument sanglante.
C'est surtout parce que... ils cherchent des parrains, en tout cas pour l'instant ils ont trouvé des tentes.
Voilà.
Hein?
Voilà, alors j'ai très brièvement résumé pour ne pas lasser les auditeurs le sommaire du Libre Journal qui comporte 24 pages presque entièrement rédactionnelles, en tout cas la publicité ne nous est pas payée. Il y a la rubrique mondaine du Marquis qui est consacrée cette fois-ci au prince qui devrait nous gouverner mais qui s'empaille plutôt, si j'ai bien compris.
Il est méchant comme une teigne, ce Marquis.
C'est très méchant, oui. Vraiment, moi qui suis pas
personne
vraiment monarchiste,
ne tombe pas à ses yeux.
Ça m'a blessé. Et puis bon, on a donc 24 pages qui sont rédactionnelles, qui sont d'excellente qualité. Alors je vous invite à les découvrir gratuitement, si vraiment vous êtes radin et mal comprenant, sur notre site internet francecourtoise.info. Je vous invite, si vous voulez un échantillon, un spécimen, le numéro 354 dont je viens de parler par exemple, à envoyer un carnet de timbre ou 5 euros. Je vous invite, si vous avez enfin compris qu'il faut vous abonner pour un an, à envoyer 110 euros à l'adresse suivante, papier crayon, SDB, c'est l'ordre du chèque également, SDB, 4 places France Liste, 75 010.
Regarde, Jacques Arnaud qui note l'adresse.
Oui,
Jacques Arnaud.
Papier crayon avant de donner une adresse.
Jacques Arnaud, ne notez pas l'adresse. Si vous faites votre chèque à moi personnellement, vous avez 10 euros de revenus.
10 euros de revenus.
Alors je note papier crayon.
Je vous le dis devant tout le monde, que les auditeurs qui peuvent me joindre le sachent. Donc ceux qui nous écoutent en Australie ou en Californie, ils sont nombreux, nous le savons, puisqu'ils nous écoutent. Ils nous envoient donc 110 euros. C'est pas plus cher pour l'étranger,
c'est
profitez-en.
C'est un petit peu quand même, enfin bon, bref.
On a... 110 euros, 4 places France Liste, 75 010 Paris, à l'ordre et à l'adresse SDB.
Non mais parce que Jean-Baptiste Chomel qui est là avec Jacques Arnoux et Philippe Dounaïev, ils sont très inquiets parce que ils voient Jacques Arnoux noter l'adresse et Jean-Baptiste me fait « Mais on est déjà abonnés !»
Non mais... Moi qui suis auvergnat, je vois ce vélin, voilà. Dit penser largement.
Je crains qu'on retrouve la couverture dans tous les bars du Marais.
Oui, en tout cas elle est belle cette couverture. Si vous aimez les beaux garçons, je vous conseille la couverture du Libre Journal parce que ça, moi je ne suis pas tellement porté sur Chomet, là quand même, c'est assez plaisant.
Solidarité du
ventre. Ah, ouais, c'est ça. Manque pas d'estomac, les cocos.
Est-ce que je peux continuer à défendre l'humanité 30 secondes parce qu'il y a un auditeur inquiet, sans doute un abonné de l'humanité, qui me demande, pensez-vous que les finances de Bouygues et Lagardère injectées dans le journal L'Humanité vont modifier la ligne éditoriale? Non, non, mais vous faites aucun souci, ça va continuer. Hein. Ça va continuer comme
nous,
depuis quelques années.
Mais je suppose que si Lagardère est... Et Bouygues le font, c'est que eux, j'espère, que ça va modifier.
Je peux apporter une ultime précision en ce qui concerne l'humanité. Bon, c'est pas ma tasse de thé, mais c'est quand même un journal qui est, où il y a que des choses qui nous défrisent. Mais je vous signale que c'est quand même la meilleure chronique hippique de France.
Ça m'intéresse énormément. Vous voyez, ça,
les frères Rousseau gagnent le concours des pronostiqueurs hippiques tous les ans. Les allumins,
oui. C'est incroyable. Est-ce qu'il y a une radio communiste qui ferait de la publicité pour le Libre Journal? Non. Eh ben, nous, on fait de la publicité pour le...
Il n'y a pas de radio communiste.
Non, mais enfin, comment il n'y a pas de radio? Il n'y a que ça.
Monsieur
je demande une minute de silence parce qu'il y a quelque chose que je veux dire depuis le début de cette émission. Je ne suis pas arrivé à le placer et je vais le faire parce que ça fait quand même ce soir 37 ans que j'inflige ma présence à une dame qui s'appelle Danielle de Beketch et qui n'est autre que ma propre épouse. Et je voudrais lui témoigner officiellement et publiquement toute ma solidarité. Parce que c'est un bel anniversaire, hein,
bon
37
anniversaire.
Ans. Vous vous rendez compte la patience de cette femme?
J'espère que vous êtes à l'écoute.
Et donc, Je l'embrasse avec beaucoup, beaucoup d'amour et de tendresse. Et en même temps, beaucoup d'admiration. Parce que moi, j'aurais pas tenu le coup. Hein. Moi, ça fait 57 ans que je me fréquente et bon, je peux plus le supporter.
Vous n'aimeriez pas appartenir à un club qui accepte un individu tel que vous?
Oui, ma petite Victoria.
Je sais plus.
Ah ben ouais.
Mais si, c'est M. Goffman. Monsieur Goffman raconte des fariboles. Ah, voilà. Bon, je me suis adressée à lui, à Notre-Dame, des... je ne sais où.
Des armées à Versailles.
Des armées à Versailles, et il ne m'a pas fait de réduction. Voilà.
Ah, oh, il s'est mis les dix devant dans la foule.
Ça y est, il est démasqué.
Ah non, parce que quand il arrive au journal, il dit à Daniel, tenez, voilà, je vous donne 100 euros parce que je l'ai fait à 100. Il s'est mis les 10 euros dans la foule. Ah, alors là.
C'est vraiment une calomnie infâme.
Ah non, mais ça, alors là, mon vieux.
Je t'avais pas balancé.
Ouais, eh ben c'est. Je ne vous fais pas mon compliment. Ça va. Tu parles d'un anniversaire.
Il a dû payer en argent liquide et l'argent liquide
ah non, mais
est fait pour être bu.
J'ai compris, c'est quelqu'un à qui j'ai vendu le journal 5 euros et qui voudrait une réduction sur le journal.
De 10 euros?
Non, mais j'ai jamais abonné personne à Versailles.
Bon. Bah non, mais on parle.
C'est vraiment le mensonge.
C'est l'aveu. Je n'abonne jamais personne à Versailles.
Ils sont tous abonnés. Ils sont tous abonnés là-bas.
Enfin, c'était pas comme ça que j'avais entendu.
Alors, s'il fait une remise de 10 euros sur un numéro du journal qui est vendu 5, effectivement, il va pas s'enrichir. Pierre Descavoux, qui est de votre métier, expert comptable.
Oui.
Est-ce qu'on peut gagner de l'argent en faisant une remise de 10 euros sur un produit vendu 5?
Je crois qu'avec la méthode utilisée par notre ami Goffman, il peut s'enrichir.
Il peut s'enrichir.
Expliquez-vous sur les comptes de l'humanité maintenant.
Non, il n'est pas expert comptable de l'humain.
Je ne les ai jamais contrôlés et sans doute j'aurais jamais accepté de le faire.
Alors Pierre, je vous ai reçu, je vous ai demandé de venir ce soir parce que d'une part vous êtes l'auteur d'un livre que d'ailleurs Goffman a lu avec d'autant plus d'attention qu'il en a été le correcteur et qui s'appelle La guerre des... enfin ça s'appelle exactement Des rêves suffisamment grands et c'est le tome 2 de La guerre des immondes avec une préface de Jean-Claude Martinez et c'est une très belle édition, il est bien foutu hein, celui-là. Il est... non je dis celui-là parce que... mais non mais ricanez pas les mecs, il est mieux que le premier. C'est rare un deuxième volume qui est mieux que le premier. En général, comment ça s'appelle, c'est pas un remake, c'est une séquelle. Voilà, les Américains appellent ça une séquelle. C'est moins bien, mais là c'est impeccable, vraiment.
Mais on dit qu'on s'améliore en vieillissant, au point où j'en suis, moi je vais encore m'améliorer sûrement.
Ben, j'espère que vous améliorerez encore pendant 30 ou 40 ans, voire plus.
Certainement.
La préface de Jean-Claude Martinez est tellement bonne qu'on l'a publiée dans le Libre Journal. On s'est dit que c'était pas la peine de chercher plus loin pour parler d'un bon bouquin que de prendre une bonne préface. Cela dit, entre nous, je trouve que... non, je dis pas, voilà. Bon, bref.
Les dessins de Chartres sont pas mal.
Ah si, non, les dessins de Chartres sont magnifiques. Non, je parlais de...
Le texte est
de
Jean-Claude, plus banal déjà.
Jean-Claude Martinez, il était invité à... c'est lui qui a rencontré Villepin avec...
avec Karl Lang, quand même.
Karl, il a été très très bien. Là. Très vous l'avez vu à la sortie, le numéro qu'il a. Il a été absolument très nickel bon. Chrome.
Ouais. Mais il est très bon. Karl, je l'aime beaucoup, je
dois dire. Il m'a impressionné.
C'est-à-dire et que... je regrette que des gens comme Karl... risque de ne pas avoir d'avenir en mouvement. Mais ça, c'est une autre histoire.
Je parie pas de rond là-dessus. Moi, je crois qu'il va faire exploser la boutique. Et il va forcément, il a forcément un avenir. Mais il était brillant. Oui, il était très calme, très serein, très posé. Il a quand même eu une phrase admirable. Il a dit Hollande est le capitaine d'un bateau ivre qui est le Parti Socialiste. C'est dommage pour le Parti Socialiste, mais c'est tant mieux pour la France. Bingo, ça, il n'y a plus rien à dire. Derrière, on tire l'échelle et puis on attend. Mais c'est vrai. En plus, il a pris du poids.
C'était justifié, car quand même, qu'est-ce que c'est que ce démocrate de pacotille qui vient dire, ah ben non, on ne doit pas recevoir les élus. Il faut recevoir les non-élus, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il
ne reprochez pas à Hollande de ne pas être démocrate, c'est sa seule qualité.
Il s'en va. Ce matin,
Elle a dû dégringoler.
C'est le plus mauvais de tous.
Ah oui, ça m'étonne pas. D'ailleurs, il est mauvais de nature, déjà.
Il y a quand même quelque chose que vous devriez savoir, que vous savez certainement, c'est dans le trombinoscope de Ratier.
Oui.
Le père d'Hollande était Algérie française.
Oui, j'ai lu ça, mais lui, on ne sait pas où il est, hein, Hollande.
Mais il faut lui demander s'il le sait lui-même.
Il n'est pas en France, il est ailleurs.
Ouais, il est dans la voie royale.
En tout cas, il n'a pas eu chance. Il était le chef du non en France. Et il a perdu et il porte le nom du deuxième pays qui a voté non au référendum.
Il est marqué par le destin.
Est-ce qu'on a dit à la télé pourquoi c'était le numéro 3 du front qui était reçu? Nous, on peut le dire. C'est que M. Le Pen et M. Gollnisch étaient reçus à la même heure au Parlement russe, avant de descendre la Volga, aller parler à l'heure. Mmh. Il faisait un séjour prolongé en Russie. Et c'est une bonne nouvelle. Lang lui-même a dit sur France Inter que ça posait aucun problème, que Le Pen lui faisait confiance.
Oui, et puis je crois que ces relations que l'on a avec les nationalistes de tous les pays sont nécessaires. Parce que si en France, un jour, j'en viens peut-être un peu au deuxième objet pour le...
On peut commencer par le deuxième, après.
C'est que j'entendais tout à l'heure le père Argouache qui se plaignait que les Français ne défendent pas leurs prêtres. Les Français, les chrétiens, ne défendent pas leurs prêtres. Ne parlons pas des évêques, parce que je crois que c'est eux qu'il faudrait qu'on défende. Et je dois dire que les Français eux-mêmes ne défendent plus rien. Ils sont complètement pris en main par toutes ces lois liberticides. Ils ont peur de tout. Et moi, ce que je voudrais essayer de faire pendant les quelques années de vie active qui me restent encore, c'est de les réveiller, qu'ils comprennent que maintenant, il ne faut pas rester passif. Sinon, déjà, ils ne peuvent plus rien dire dans je ne sais combien de domaines. Tout à l'heure, mon voisin parlait du politiquement correct dans un tas de domaines, mais il n'y a plus de domaines où on peut s'exprimer. Maintenant, le Français doit fermer sa gueule, payer et marcher. Et on ne lui demande absolument rien d'autre. Mais moi, je dis, mes amis, il faut vous réveiller. Il faut vraiment maintenant que vous deveniez aussi des hommes. Il ne faut pas se laisser mener par le bout du nez. Tous les hommes politiques mentent. C'est leur raison d'être. Les médias mentent. À part les médias nationaux, il y en a peu. On est invité par le Libre Journal. C'est un de ceux qui peuvent défendre encore la vérité. Mais à côté de ça, cette passivité populaire qui est née de la peur. On a peur d'aller en correctionnel. On a peur d'être insulté. On a peur d'être désigné du doigt dans les journaux qui sont inféodés au mondialisme. Eh bien, cette peur, il faut l'enlever. Et si 100 000 Français seulement n'avaient plus peur, 100 000, qu'est-ce qu'ils feraient? Quels sont les magistrats qui pourraient condamner 100 000 personnes à la fois? Ils ne pourraient rien faire. Alors moi, je dis maintenant... On a des possibilités. J'ai vécu 6 ans de clandestinité, je sais comment ça marche. Eh bien, on peut faire dans la légalité le travail que l'on faisait dans la clandestinité.
Pierre, vous dites 100 000, ça me paraît, effectivement, vous avez raison, 100 000, plus personne ne bouge, mais je vous rappelle qu'il en faut beaucoup moins, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que, il y a quelques années, il y avait un crime en France qui s'appelait l'avortement. L'avortement était un crime qui était poursuivi aux assises et qui, en 47, je crois que la dernière femme qui a été exécutée en France, c'était en 47 ou 45, c'était une avorteuse. Or, à la fin des années 60, début des années 70, il y a eu le manifeste des 343 salopes. C'est pas moi qui invente le mot, c'est elles qui ont signé.
Ah oui, elles ont signé comme ça.
343 femmes, dont des femmes politiques, des avocates, des écrivains. Il y avait François Giraud, il y avait Gisèle Halimi, il y avait, comment ça s'appelait, la dame qui endormait tout le monde dans François Hiroshima, Sagan. Mon amour. Delphine Seyrig et compagnie, Duras et compagnie, qui avaient signé en disant, nous nous sommes fait avorter, ou nous, bon, et nous demandons à être inculpés. Elle demandait ça pour être solidaire d'une jeune fille qui, à Grenoble, avait subi un avortement. Eh bien, la justice a calé. Et c'est ça qui a engagé le processus qui a conduit à l'abolition d'une loi qui était une loi qui criminalisait l'avortement. Aujourd'hui, on est en présence de lois liberticides qui ne criminalisent pas, mais qui contraventionnalisent certains propos présumés racistes ou supposés racistes ou supposés négationnistes ou révisionnistes. Et on a, si on trouvait 343 salauds qui diraient « je ne crois pas à l'existence du Père Noël », non du Père Noël, pour simplifier.
Oui, ça c'est simplifié.
Je pense que les grands magasins auraient du mal à nous traîner tous les 343 devant les tribunaux. Mais quand moi je dis « je ne crois pas à l'existence du Père Noël », eh bien, on me prend tout seul, on m'amène devant un tribunal et on me condamne parce que je ne crois pas à l'existence du Père Noël.
C'est normal qu'on ne fasse pas de cadeau.
Merci, fait aucun cadeau.
De toute façon.
Sans le sapin, bien sûr.
Moi, j'ai été deux fois déjà en correctionnel et pourtant.
Ça ne s'est pas corrigé.
Non, ça serait difficile de faire. J'ai passé toute ma vie à me battre, moi. Alors, je ne sais pas ils ne vont pas me faire plier. De Gaulle ne m'a pas fait plier. Je ne vois pas les minables actuels me faire plier.
Je crois que c'est ça. La vraie solution, ce serait qu'il y ait une véritable mobilisation de gens qui disent « Bon, qu'est-ce que je risque au fond ? Pas grand-chose. Je risque une amende. »
Nombreux, ils ne risquent rien.
Voilà.
Ils ne risquent rien.
Plus ils sont nombreux, moins ils risquent.
Exactement. Alors, c'est pourquoi, à travers le mouvement que j'ai créé avec quelques amis France Résistance, après avoir lutté pour le non au référendum, et je dois dire que notre site a recueilli beaucoup de personnes qui sont venues voir, c'est le site www.france-resistance.com. Alors France Résistance en minuscule. Donc sur ce site, nous passons nos messages. Imaginez que les documents qui vous sont fournis par ce biais, vous les reproduisez. Il suffit d'avoir une imprimante pour l'original et ensuite une machine à photocopier pour en faire des quantités. Vous les distribuez autour de chez vous, dans votre métier, dans votre commune, partout où vous avez envie de le faire. Ça demande très peu de temps pour chacun. Mais je reviens à mes 100 000 personnes. Si 100 000 personnes font ça, ils sont foutus. Ils n'existent plus. Ils n'existent que par le manque de courage que nous avons. Chacun attend des directives, des chefs suprêmes, des leaders. Mais on n'en a pas besoin. Il faut avoir des idées. Les idées, on les a. Elles sont sur le site, on les reproduit, on les distribue, et après, si un jour, le pays était amené à une situation conflictuelle, ces petites équipes de 5 personnes qui se connaissent depuis toujours, qui ne seront pas infiltrées puisqu'ils se connaissent depuis leur naissance presque, eh bien ces petites équipes pourront passer à autre chose. Et ce jour-là, il faudra se défendre parce qu'un jour ou l'autre, les Français seront menacés de perdre leur maison, leur territoire et leur pays. Et s'ils ne se défendent pas, eh bien, ils deviendront des exilés, des expatriés. Il faudra qu'on en arrive là, contrairement à ce qu'on peut penser. Mais pour le moment, on a la chance d'avoir un combat légal. On a la possibilité de diffuser des idées. Il s'agit de lutter contre les lois liberticides. Les gens qui prennent le site peuvent très bien nous informer, d'ailleurs, de ce qui est arrivé dans leur entourage. Et nous, nous nous chargeons à ce moment-là de rediffuser largement dans tous les milieux auxquels nous avons accès. Déjà, par la lutte du non, nous avons réussi à avoir des accords d'échange avec d'autres associations qui, elles non plus, ne sont pas politiques. Nous, on ne veut pas présenter de candidats. Vous me voyez à mon âge, moi, candidat, quelque chose. Mais même les autres non plus. On ne veut pas présenter de candidats, mais on veut défendre nos principes, on veut défendre la morale, on veut défendre tout ce qui a été la structure de notre société chrétienne et qui n'est plus défendu actuellement. Pourquoi ? Parce que on élit des hommes politiques, mais le peuple ne les élit pas, faut pas se faire d'illusions. Ils sont choisis par les dirigeants des partis politiques. Donc, quand vous allez voter pour X ou pour Y, pour tel ou tel parti, c'est pas vous qui avez choisi. Ce sont les énarques qui dirigent ce pays, les Juppé, les Sarkozy, toute cette bande d'incapables qui ont mené la France au niveau de la faillite économique, de la faillite morale, de la faillite intellectuelle, voilà qui nous dirige. Eh bien, c'est contre ça qu'on doit lutter. Et c'est moi, j'appelle mes compatriotes, mes concitoyens, à se réveiller. Parce que s'ils ne se réveillent pas, il va leur arriver ce qui est arrivé aux pieds noirs d'Algérie. Et on a vu ce que ça a coûté, combien de morts, combien de drames, cet exode de toute une population. Est-ce que c'est ça qu'ils veulent ?
Mais c'est surtout que les Français d'Algérie, ils avaient encore un bout de territoire pour se replier. Mais le jour où nous, on va être foutu à la porte, où on va aller où ? Peut-être en Corse ? À faire beaucoup de monde en Corse, quand même. Ouais. La Corse est belle, elle est grande, mais quand il faudra emmagasiner 40 millions d'indigènes là-bas...
Alors, on en est amené à quoi ? Bon, je vais parler un peu de mon livre. Si j'ai été obligé de recourir à la fiction des extraterrestres, c'est parce que tout ce que j'ai sur le cœur, et dont je viens déjà de parler, mais en voulant aller plus loin et en examinant la situation que nous vivons tous les jours, dont tous les citoyens français, que les citoyens français rencontrent tous les jours. J'ai voulu pouvoir le dire. J'ai voulu aussi pouvoir exprimer des pensées libres, une opinion libre. Et donc, j'ai pris une fiction. Mais personne ne sera dupe. En lisant ces extraterrestres nés d'or là qui vont envahir la France, je pense que tout le monde aura compris de quoi il retourne et que
pas la moindre idée de ce que vous voulez dire.
Et je voulais dire pour terminer peut-être parce que j'étais un peu long et je sais que mes voisins veulent parler.
Non mais c'est surtout moi ce qui me frappe, c'est Dounaïev qui a les moustaches qui frémissent parce que quand il entend parler de Nédor, il se dit mais est-ce que c'est pas des moustaches de soie qui sera en train de parler celui-là ? Il a des moustaches qui me font honte à moi qui suis pourtant je suis soigneux. Hein.
Je dois dire que on se place sur le terrain constitutionnel, car notre liberté d'opinion, notre liberté de penser, notre liberté d'expression est garantie constitutionnellement, et elle est garantie aussi par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948.
Bien sûr, j'ai préparé un petit numéro de violon là, parce que là.
De 1948, articles 18, 19 et 20. Alors, on est dans la légalité, ce sont les autres qui n'y sont pas. Ils ont concocté des lois liberticides qu'ils n'avaient pas le droit de faire. Et s'il y avait un conseil constitutionnel dans ce pays, quand on a vu les Simone Veil et les Giscard d'Estaing, bon, on a compris, il n'y en a pas. Mais s'il y en avait eu un, ces lois ne seraient jamais passées, car elles sont contraires à tous les droits de l'homme. On traîne ça depuis 1789, une année qu'aime bien mon ami Serge. Mais quand même, ça existe. Et depuis 1789,
Voilà, 89, oui, c'est une belle année. Mais 1989, je préfère, c'était l'époque où j'étais encore tout jeune. Merci Pierre. Il est paru où, ce livre?
Chez Déterna.
Très bonne maison.
Si on ne le trouve pas, je pense que sur le site dualpha.com, on peut le trouver.
Voilà, édition Déterna, BP58, 77-522, Coulommiers-Sedex. Et ça fait partie, effectivement, de chez...
C'est 23 euros, non?
C'est...
Il y a le prix derrière, je crois.
23 euros.
Voilà. Port compris.
Port compris. Francie.com, contact à Francie. Et puis à www.dualpha.com. Voilà.
Merci, Pierre. Alors,
merci à toi.
Et France Résistance,
alors là, c'est
le site dans le Libre Journal. Hein.
www.france-resistance.com, France Résistance en lettres minuscules.
Alors, je signale quand même que France Résistance, un des animateurs qui travaille avec toi, ce n'est autre que René Féjean.
Qui était
à l'émission la semaine dernière, qui a parlé de la sémantique. La sémantique générale, je le dis parce que c'est une émission qui a eu un succès incroyable, mais vraiment, j'ai été frappé par le nombre inimaginable de réponses et de réactions qu'on a eues. Et ça veut dire que quelqu'un qui est à la fois un adepte de cette technique d'analyse, de réflexion et d'élaboration de la pensée, et qui est engagé dans un combat comme celui que tu mènes, ça permet de prendre les choses au sérieux. C'est pas des fantaisies politiciennes pour avoir des élus à 3 francs 6 sous. C'est vraiment un combat intéressant.
Il sera pas candidat non plus.
Non. D'ailleurs, moi, je voterai pas pour lui parce que j'en ai marre. Je ne vote plus. On a bien vu que les élus ou non, évêques notamment, n'ont pas levé le doigt pour défendre le lundi de Pentecôte. Nous dit une auditrice, c'est le peuple qui a réagi, il faut continuer. Et c'est vrai qu'il se passe quelque chose de tout à fait intéressant. Le lundi de Pentecôte, le lundi travaillé a foiré, parce qu'il y a eu une espèce de réaction populaire, populiste, on appelle ça comme
ça. Qui a commencé ici, Serge, dans ce studio.
Oui, c'est vrai.
Aussi. Oui, il faut le dire quand même.
À notre ami,
qui va le dire
un grand sommeil, à Jacques.
Et les amis qui ont ensuite travaillé.
Voilà, il y a eu un beau travail qui a été fait, mais particulièrement intéressant ce travail parce que vous êtes arrivé à créer des liens avec des gens qui sont assez réservés, sont très prudents dans leurs relations et tout, et ça fait un vrai mouvement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrive à collaborer avec certains mouvements syndicaux, c'est comme ça qu'on dit. C'est un mot que j'aime pas tellement, mais enfin bon, ce que vous avez fait, vous avez obtenu des résultats, c'était bien. Le résultat était efficace. Jacques.
Nous n'avons pas fait grand chose en vérité, nous-mêmes. C'est vrai qu'on a eu une réaction initiale de pousser vers l'action, mais qu'ensuite, nous-mêmes, on s'est un petit peu retiré pour laisser des jeunes ou des gens engagés dans des mouvements beaucoup plus importants que nous se mobiliser et faire tout le travail. Hein.
Et alors il y a eu ça. En plus, et ensuite il y a eu le non au référendum qui est quand même un succès de la base là, parce que quand moi tous les partis qui disent c'est le non qui l'a emporté grâce à moi, grâce à nous, grâce à le non, c'est tout simplement Bitru qui a dit écoutez, vous commencez à nous les briser menu. Alors c'est non et merde accessoirement.
Voilà, c'est ça.
Ouais. C'est le premier
non en 5 lettres comme nous là.
En 5 lettres. Bonsoir à toute l'équipe et je viens très jolie musique. Jacques Arnaud, vous allez en faire une adaptation pour la chorale. Alors, bonsoir à toute l'équipe. Je viens de recevoir une invitation à la Garden Party de l'Elysée le 14 du mois de juillet. Aurais-je le plaisir de vous y rencontrer? C'est possible, mais pour l'instant, Jacques m'a pas encore téléphoné pour me dire, dis donc, Coco, tu viens... Vincent nous dit, le politiquement correct, c'est l'Arvatus Prodeo. Vincent, vous irez au coin, vous me copierez 100 fois l'Arvatus Prodeo, ça veut dire j'avance masqué. Ça ne veut pas dire politiquement correct.
Et alors, comment on le dit, le politiquement correct? Il vous le réclame?
Civilem prudentiam.
Comment vous écrivez ça?
Civilem, C-I-V-I-L-E-M, prudentiam, P-R-U-D-E-N-T-I-A-M. La prudence civile.
Élève Beckett, je vous aurais 10.
20.
Ah, moi je note sur 10.
L'acteur Didier Bourdon vient de lancer une chanson On ne peut plus rien dire.
Oui, oui.
C'est pas
elle
bon
est vraie. Non, mais il peut adhérer à France Résistance, on le recevra volontiers.
Je peux en citer trois lignes.
Oui.
Nous allons créer une loi contre l'homophobie, mais. Une vraie loi, pas une loi de tafiole, enfin de...
Ah, c'est un auditeur, les médias de cette idée du 1500e jour de capture d'Ingrid Betancourt, qui, je le rappelle, s'est présentée comme candidate aux élections présidentielles en Colombie, ce qui veut dire qu'elle est colombienne. En fait, c'est une binationale. La binationalité est une hérésie juridique qui constitue un frein à l'intégration de tous les binationaux. Qu'en pensez-vous ? Nous demande. Alors, la signature, c'est... Qui est-ce qui nous écrit ça ?
Ah oh ben, c'est mon ami Farid.
J'ai un scoop sur Farid Smaïd.
Oui.
Il serait en concurrence, un vrai bras de fer, avec Richard Haddad, pour l'investiture dans le 16e arrondissement de Paris du FN, ce parti raciste.
Ah oui, j'entends bien.
Alors, on doit pouvoir trouver une bonne investiture. Pour, enfin, moi, je suis pas... Non, pas non plus.
Moi, je n'interviens plus dans les affaires électorales.
Entrez, mon père, revenez et vous chauffez avec nous. C'est le père Aragouache qui revient s'ennuyer dans
le...
On a bien vu que les élites, je l'ai déjà lu, celle-là, vous faites lire deux fois les mêmes messages. Non, mais elle est incroyable, cette Victoria.
Hein, c'est le désordre dans notre administration, mon pauvre ami.
Mon pauvre ami, je suis pas
votre ami. Vous êtes mal entouré, Serge.
Je suis pauvre, mais je suis pas votre ami. Il y a quelques jours, est passé sur France
2. Encore une illusion qui s'en va.
Sur France 2, une petite info qui fait réfléchir. Sur un ton humoristique, le reportage montrait un radar automatique quelque part du côté Clermont-Ferrand qui avait été mis hors service pendant 3 semaines. Pourquoi ? Parce que EDF avait coupé le courant pour facture impayée. Amusant, non ? Oui, mais s'il y a quelques jours sur France 2, c'était il y a... 3 semaines dans le Libre Journal. C'est pour ça que quand même, ça me fait un peu rigoler. Mais voilà. C'est donc une société privée qui gère le radar. C'est énorme, non ? C'est une société privée qui gère les radars.
Et l'État qui encaisse.
Non, non. Alors, c'est la société privée qui encaisse. Non, mais c'est invraisemblable, mais c'est comme ça. Et elle afferme en quelque sorte les radars. Et elle paye. Elle dit à la... Alors, vous allez voir la suite, parce que c'est très intéressant. La société privée qui ferme les radars dit à l'État, ce radar, il doit rapporter, je dis n'importe quoi, 5000 francs par jour. Donc nous, on vous paye 5000 francs par jour. Tout ce qui est en plus, c'est pour mes pieds, c'est pour nous. Ils ont fait l'expérience à Marseille. À la sortie de Marseille, ils ont installé en direction de Marignane un radar sur une voie à 110 km/h. Au bout de 3 mois, pas une seule contravention. C'est-à-dire que les automobilistes, c'est dans le Libre Journal aussi, les automobilistes, on leur dit radar, ils lèvent le pied. Pas une seule contravention. Pas un seul accident, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Normalement, on prend le radar, on le déplace. En disant, bon là, il ne marche pas, on va le mettre ailleurs. Pas du tout. Ils ont diminué la vitesse. Ils ont mis la vitesse à 90 km/h, alors que c'est une voie à trois, enfin c'est une autoroute à 3 voies. Il n'y a aucune raison de rouler à 90 à cet endroit-là. Voilà. Et ils attendent maintenant qu'il y ait un type qui dit...
Après, ils la mettront à 60, après à 20, et ils auront beaucoup de contraventions.
Jean-Baptiste s'en va parce qu'il doit prendre un train. Jean-Baptiste, au revoir.
Moi, je me remplace utilement.
Bon, c'est bien. Voilà, alors maintenant, on va parler du sujet pour lequel il était venu.
Attendez, il y a un auditeur qui vous demande, quel est le nom de cet invité qui, de façon très française, a un délicieux accent pied-noir ?
Pied-noir ?
Pierre Descaves de Tlemcen, où j'ai connu le deuxième Spahi, dont le père Argouache tout à l'heure a parlé des Spahi. J'ai vécu avec toute ma jeunesse.
Tu es de Spahi, alors, comme dirait Charles. Monsieur Goffman, il y a plein de coquilles dans le Libre Journal. C'est pas moi qui le dis, c'est un auditeur. À propos du Presse Club de France, comment se fait-il que vous n'ayez pas mentionné Monsieur Michel Fernet, membre de la Grande Loge de France ? Bah alors là, j'ai même pas entendu ce nom-là. Ah ben forcément, si on l'a pas mentionné, bien sûr. Non, mais c'est pas en raison de vieilles amitiés maçonniques. C'est parce qu'on en est parti, hein.
Oui,
Marquis.
Sans regret.
Voilà, sans regret. Donc On ne les protège plus maintenant qu'ils se débrouillent.
Ils ne nous protègent pas non plus, d'ailleurs.
Pas beaucoup.
Serge, est-ce que vous voulez savoir les résultats du référendum,
oui,
au cas où vous ayez
demander.
Des doutes? Eh bien...
Mais combien de réponses d'abord?
Beaucoup.
200, 800...
Le sujet du référendum, on le rappellera après les résultats.
Pour le référendum, soupir les téléphonistes, il n'y a que des noms depuis 18 heures.
Il s'agissait des Jeux Olympiques, je crois.
Voulez-vous les Jeux Olympiques?
Deuxièmement, êtes-vous prêt à payer?
Voulez-vous payer?
Alors, sur les Jeux Olympiques, donc, contre le... Il y a eu un seul... qui a voté, un seul homme qui a voté pour les Jeux.
Non, mais c'est parce
pour
qu'il
les
croit
JO.
Qu'il écoute radio.
Mais c'est par provocation, nous dit-on là. Et alors, une auditrice nous dit « Je suis théoriquement neutre. » Quoique tenter de dire non au JO. Mais par contre, je suis opposée au fait de payer que quoi que ce soit. Alors, beaucoup d'auditeurs donc, vous disent non. Je ne vous les ai pas comptés, parce qu'il y en a trop. Mais certains expliquent quoi. Alors là, l'auditeur dit « On a gagné ITER et je suis contre les JO en France, car je n'ai pas envie de payer. Une dame profite de l'affaire pour dire qu'elle est du même genre que vous et qu'elle vous aime beaucoup. Mais qu'elle vote non, bien entendu.
Si elle est du même genre que moi, c'est pas une dame, alors. Sauf erreur de ma part.
Alors...
Ah, du même jour.
Du même jour. Du même genre. Les dates.
Je la connais, c'est ma jumelle.
L'anniversaire et tout ça, voilà.
Non, elle n'est pas de la même année. Mais je ne parle pas des années, moi. Bon. Alors, Jeux Olympiques, sondage SDB, je suis contre, mais combien ça va nous rapporter, les Jeux? Ah.
Des tas d'emmerdements, probablement.
Rien nous rapporter.
Pendant des mois, des personnalités politiques, journalistes, showbiz, etc., se sont exprimés dans Le Parisien pour dire qu'il fallait que nous ayons les JO à Paris. Si nous les avons et que nous devions payer, pourquoi ne pas présenter la note à ces messieurs-dames qui ont des revenus largement supérieurs aux nôtres?
Non mais à ce propos, il y a un truc qui est extraordinaire. Il y a un type qui s'appelle, comment il s'appelle? Parker, je suis tombé Parker, c'est la faute à Voltaire. Hein,
voilà, c'est ça.
Qui envoie un ballon dans un...
Tony Parker. Le joueur de basketball.
J'ai toujours un ballon qu'on envoie dans un truc.
Le français Tony Parker.
Alors, il a un nom américain, il est lui-même. Il est français, quoi.
Khaled.
Et alors, il vit aux États-Unis et il vient nous expliquer qu'en France, il faut qu'on fasse. Mais, camarade, si tu aimes tellement les Jeux Olympiques, pourquoi tu ne veux pas chez toi, enfin, au pays où tu... C'est incroyable.
Surtout que New York est candidate.
Ben exactement. Moi, à sa place, j'emporterai les Jeux Olympiques et puis toute la smala et mes paquets, mes bidons, ma tante, mon oncle aussi d'ailleurs.
Vous parliez de démocratie tout à l'heure, mais à qui ils ont demandé son avis avant de faire cette campagne à grands frais avec nos impôts? À qui?
Je sais pas. Vous avez une idée, vous? Moi, personne. Bon, voilà, c'est ça. Pas plus que Delannoy m'a demandé l'autorisation de boucher ma rue, la rue en face, la rue à côté, avec ses projets de tramway, de trottoir élargi, de recirculation par taxi, les trottoirs pour les travaux, les couloirs pour les tramways, on n'en sort pas.
Alors un autre qui ne veut pas payer aussi, mais qui dit, et quand je pense qu'en plus les Français vont fêter la victoire des Anglais sur les Français, c'est incroyable. Un autre vous dit, non, deux fois non au jeu et ne pas payer, mais deux fois oui, et oui à Louis, le 20e. On n'en parle plus, comment ça se fait?
On en parle dans le libre journal de cette semaine.
Voilà.
Et puis momentanément retenu par des occupations familiales.
Voilà.
Une auditrice.
Non, on a bien mis jouer au polo.
Une auditrice. Je suis prête à payer un peu, mais pas trop, pour que les JO aient lieu à Londres. Histoire de se rappeler au bon souvenir de la reine d'Angleterre, qui avait dit que ce serait bien mieux à Paris.
C'est pas mal.
Elle est pas folle, Granny.
Je deviens monarchiste.
J'ai beau pratiquer le tir à l'arc, je ne veux pas de jeu à Paris. Il faut arrêter de vivre au-dessus de nos moyens financiers. Je propose donc que les jeux soient organisés en permanence dans un même lieu, en Afrique, qui ne les a jamais reçus, et que tous les pays participants contribuent. Donc,
c'est pas bête, ça.
Village
olympique
permanent, au lieu de le démonter 15 jours après.
Des cibles vivantes pour les archers.
On enverrait tous les sportifs en Afrique. Madagascar, tiens.
Bah voilà.
On envoie tous les sportifs à Madagascar et on les ramène pas.
Voilà.
Ça a déjà été envisagé, ça. C'était pas pour les sportifs, je sais plus.
Enchaînons.
Contre les sportifs. Nous n'avons pas l'argent pour ces bêtises, mais bravo pour votre petite revue de presse. C'est léger et passionnant. Dans le Libre Journal, c'est léger et passionnant.
Oh, c'est Goffman.
Oui, mais c'est pourri de coquilles, il y a plein de fautes.
C'est pas moi qui l'ai relu.
C'est pas qui le disent.
C'est pas vrai qu'il y a plein de coquilles. Non, alors là, franchement, je trouve ça pas honnête.
Je trouve qu'il y a pas vrai. Éventuellement des coquillettes, mais.
C'est un genouille.
deux fois non pour les jeux et pour payer, mais je vous entends de Dordogne. Je vous écoute sur TPS. Les jeux, une auditrice, voilà, c'est celle de tout à l'heure, qui l'aime beaucoup, elle est née le 12 décembre.
Eh ben oui.
Contre les 30 à Paris. Non,
pourquoi les 30 ?
Parce qu'on va être bientôt 30. Au train où on va. Enfin, 30 participants en Europe.
Ah.
Voilà, il ne fallait pas se louper non plus.
Parce que c'est ça, bon. Non, à 100%. D'accord pour les JO, mais quand la France aura payé sa dette.
C'est en l'an 3000, alors, après Jésus-Christ, bien entendu.
Résolument contre les Jeux. Et je propose que si Paris n'a pas les Jeux, que tous les Parisiens demandent leur remboursement de leur carte orange. Vu que toutes les portes de métro ont été polluées par de la publicité pour les Jeux depuis plusieurs mois.
Moi, je trouve qu'on devrait virer les députés parce qu'ils ont mis un grand truc, les Jeux Olympiques.
Quand on passe à 1h du matin, on a l'impression que c'est une entrée d'une boîte de nuit.
Exactement. Mais donc, qu'est-ce qu'ils doivent se marier là-dedans? Ils doivent penser.
Alors, vous voyez, c'est la gloire, parce qu'une auditrice vous dit, j'ai écouté Radio Courtoisie dans le Missouri sur Internet, et c'était formidable.
Ah, le Missouri, c'est bien.
Non, mais c'était l'écoute là-bas dans le Missouri.
Comment voulez-vous qu'on lui brûle l'écoute?
Pour le JO, pour les résultats, c'est tout.
Il est content, il a trouvé. Il court comme Petri qui a 140 ans, il est content. Du Goffman craché, ça. Il n'est pas up-to-date. Hein.
Il faut absolument transmettre les résultats écrasants du sondage sur les JO au CIO, cela l'éclairera.
Je connais bien Monsieur Samaranche.
Ça lui fera trop de peine.
On va lui mettre dans l'enveloppe.
J'ai lu dans le Figaro récemment que Vladimir Volkov avait apporté son soutien à la candidature de Moscou pour les JO.
Votre Karachor.
Votre Karachor.
Maladiette.
Et alors tout de même, pour que vous sachiez, les Jeux de
2000. Voilà, Dounaïev est d'accord avec nous. C'est vrai qu'on est plus nombreux que vous ici. Hein.
Arrêtez de causer
des caves au secours.
Les Jeux de 1968 à Grenoble viennent seulement d'être remboursés. Alors,
pas à moi, en tout cas.
Tous les Jeux de mai 68 n'ont pas été remboursés. Hein.
Non. Et le paysage de Grenoble est toujours saccagé.
Ça, c'est un message personnel à Serge de Beketch. Oh. Par les temps qui courent, si vous n'étiez pas membre fondateur de cette radio, vous auriez été remercié depuis longtemps. Oui. Car en dépit de ce qui est dit, Radio Courtoisie a beaucoup changé et a fait un pas appréciable vers le politiquement correct.
C'est la deuxième fois qu'on le lit. Hein.
Oui, mais c'est bien sûr. Je suis content. Il ne faut pas hésiter quand ces messages sont intéressants à les lire deux fois.
Il a raison, cet auditeur. Remercions Serge de Beketch.
Il n'est pas le seul de son avis, d'ailleurs.
Merci, Serge de Beketch.
Merci de me remercier.
Quel est le nom et l'adresse de l'association qui nous défend contre les pubs? C'est quelqu'un que vous avez reçu la semaine dernière.
Moi ?
Oui.
Non, pas du tout, non.
La chaleur.
Contre les pubs, non. Il y a une confusion fatale, là. C'est pas du tout ça qui s'est passé. Mais bon, moi, je suis pour la pub, parce que ils me font les anti-pubs qui griffonnent les publicités dans le métro. J'ai rien contre. Enfin, ils griffonnent ce qu'ils veulent, d'ailleurs, je m'en fous, mais ça serait remplacé par quoi, la pub? Des murs blancs? Des slogans? Non.
Puis parfois, il y a des choses drôles.
Que pensez-vous de la discrétion de Violette sur la marche en Espagne contre le mariage homo, ainsi que l'adoption d'enfants, au point que l'on a minimisé le nombre de manifestants alors qu'il dépassait le million de personnes?
Je suis contre. On va dire mieux. Non, mais c'est vrai en plus. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'on s'en étonne. Voilà. On sait très bien que l'autre, là, Encore que j'ai peine à dire l'autre parce que c'était la Sainte Vierge qui avait dit à l'abbé Lamy. Tu connais ça, Jacques? L'abbé Lamy qui insultait Satan, enfin qui le traitait, et il paraît que la Sainte Vierge lui a paru, lui a dit respect à l'ange déchu.
Ah oui, non à la satanophobie.
Ah bah tiens, voilà, non à la satanophobie. Mais je pense quand même que là, en ce moment, il marque trop de points, il va falloir qu'on s'en occupe sérieusement, peut-être au moyen de quelques prières artistement distribuées. Enfin, on va organiser son récit. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, l'abbé? Il ne pense plus, il se tait, maintenant c'est fini.
Un auditeur vous dit, fatigué. Pourquoi ne lisez-vous pas les messages?
Ah bah, elle est bonne celle-là.
Allez, hop, on passe à autre chose.
On vient d'en enfiler 40 là.
Message.
Message. Oui, nous étions venus vous présenter notre voilà. Disque Vendée 1792-1796, donc œuvre communautaire du Cœur Montjoie-Saint-Denis, préparée depuis près de 2 ans. 72 minutes, je crois, de chants.
De pure musique.
Un certain nombre de nouvelles compositions, des chants anciens inédits, et qui replacent le génocide vendéen dans son contexte historique. C'est-à-dire, on part de l'interdiction, si vous voulez, de la religion catholique indépendante de l'État, puisque l'État totalitaire prétendait imposer sa règle au clergé. On passe par le massacre des Suisses, l'insurrection, les martyrs de septembre. Les martyrs de septembre, on a les martyrs des Carmes de septembre, etc., etc. Et on va jusqu'à la mort de Charette. Voilà, ça fait, je crois, une trentaine de chants, avec un splendide livret pour une fois.
Oui, c'est 31 chants, accompagné d'un livret de 52 pages, extrêmement didactique, pédagogique, bien illustré.
On a décidé de faire emmerdant, si je comprends bien les mecs. Moi, je les invite en disant, on va bien se marrer. En disant, ils nous font un numéro, là, didactique.
Didactique, c'est indispensable dans toutes les...
Avant, j'aimerais quand même que vous présentiez, parce que Jacques Arnoul.
Jacques Arnoul, chef du Cœur Montjoie-Saint-Denis, chef du chapitre des martyrs de septembre.
Dont
la devise est de prier.
Oui, c'est les martyrs de septembre du Cœur Montjoie.
Les deux.
Ouais. Ah oui, non, c'est deux choses.
Ça n'a rien à voir.
Relativement indépendant.
Il n'y a pas de devise unique. Si ce n'est servir, puisqu'on est dans la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul, et je crois que c'est la fête de la mission. Et c'est notre petite mission.
Je pense qu'il le reprend, mais alors.
C'est notre petite mission, quoi.
Bon, c'est bien, mes petits. Je ne le dirai pas.
De chanter.
D'accord.
Et je remercie d'ailleurs Radio Courtoisie, puisque ça fait des années que, à chaque fois que nous faisons paraître un disque, vous nous invitez très gentiment.
C'est normal, puisque je vous exploite depuis des années en passant comme générique un de vos plus beaux morceaux, qui est Le Partisan Blanc.
À propos, demande cet auditeur, quand Jean-Baptiste Chaumet rééditera-t-il le CD ou l'on. Pardon, le disque compact où l'on trouve le générique de l'émission de Serge Devecchio.
Mais il est toujours disponible, non?
C'est le 1.
Le 1, oui.
C'est un peu compliqué parce que les rééditions de CD nécessitent un assez gros travail puisqu'on essaye à chaque fois d'améliorer, de retrouver une meilleure interprétation.
C'est pas la peine, c'est une perfection absolue.
Merci.
Où peut-on le pirater alors?
C'est un vocabulaire qu'on ne connaît pas encore, non. Donc on reviendra, Monsieur Goffman, en deuxième semaine pour s'éduquer sur le sujet.
Alors celui qui parle et là, donc, celui que vous avez entendu avant, c'est Jacques Arnoul. Là, c'est Philippe Dounaïef qui est.
Oui, qui est pas chef du tout du Cœur Montjoie, qui est popotier et accessoirement pianiste. Mais enfin, disons, qui fait un peu de bruit.
Qui fait le piano en cuisine et en
d'un piano l'autre. Voilà, c'est le titre de mon prochain roman. D'un piano l'autre, un livre de souvenirs.
Ma mère croyait que j'étais pianiste dans une cuisine.
Bon, alors donc, combien vous avez fait de compact disques jusqu'à présent?
Ça doit être le 16e ou le 17e, si on les compte tous. Entre les vinyles, les anciennes cassettes et les disques compacts, on doit s'approcher des 20 titres, puisque Chant d'Europe qui est devenu Chant de France, après qu'on nous ait eu imposé l'Europe, on en est revenu à un territoire plus hexagonal, donc on en est à 12. C'est ça à peu près?
chef.
Mmh, oui,
plus
je sais pas.
L'album des chants parachutistes, les chants de la
vigne et du vin, de la marine.
La marine.
Les chants d'enfants.
Les partisans blancs, l'album particulier, chants d'enfants avec Riomont. Donc on doit arriver pas loin des 20 titres. Et donc lorsqu'ils arrivent à être épuisés, parce que grâce en particulier à l'antenne de Radio Courtoisie, on en voit pas encore dans le Missouri, ça va pas tarder.
Là, ça y est, c'est fini.
Voilà,
là,
c'est comme si c'était fait. Et ce qui fait que lorsqu'on arrive à une édition qui est épuisée, on essaye non pas de rééditer à l'identique, mais d'améliorer la mouture suivante, ce qui nécessite un travail auquel, en particulier, Jean-Baptiste Chomeil collabore fort activement. Mais comme nous sommes tous un petit peu pris par nos activités professionnelles respectives, ça fait qu'on n'est pas disponible non plus que pour le Chœur Montjoie-Saint-Denis, ce qui nous amène à certains délais.
Il faut préciser que Jean-Baptiste était obligé de partir parce qu'il avait un cochon à tuer, j'imagine.
Ma foi, ça fait partie des obligations auvergnates de base. Le cochon n'attend pas.
Quand tu as commencé, c'est toi qui as lancé, Jacques, le chœur.
Enfin, je n'étais pas tout seul.
Non, ouais, voilà. Autrement, ce serait pas un chœur, un solo. Mais... Alors, donc, vous étiez combien? Non, mais... Vous étiez combien au départ?
On était combien au départ? On était une quinzaine.
Ah, quand même, il y avait même mon fils dans la bande. Peut-être pas au départ.
Peut-être
mais
pas
au départ.
Non, mais il a fait un passage.
Passage éclair. Juste avant de le foutre à la porte.
Un passage presque assidu.
Ah bon, c'est vrai. Et combien il reste, en dehors de toi, de Philippe et de Jean-Baptiste, combien il reste de participants
du premier disque, de 1978-79, nous sommes deux.
Jean-Baptiste, tu es arrivé après
pour Chambre d'Europe 3.
Ah, mais tu venais de loin.
Auparavant, oui.
Tu venais de l'Orient éternel.
Je défendais les marches de l'Empire, outre-Rhin.
Et
il y avait, il reste donc effectivement le chef et le président parmi les premiers initiateurs.
Moi j'ai un souvenir très fort de cette période parce que
Si on fait l'inventaire complet des gens qui sont passés avec des séjours plus ou moins longs, on arrive à 500 personnes.
Ah, ça me semble que 500.
Pas tant, 400.
Non, je crois pas.
Il y a eu beaucoup. Il y en a qui ont
dépassé les 350, il y a déjà un certain temps.
Fermez pas la porte, je ne sais que passer, mais il y en a eu
énormément.
Mais j'ai un souvenir très fort de ça parce que quand Jean Ferret a créé Radio Courtoisie et qu'il a fallu choisir un générique, il se trouve que je venais de recevoir, donc c'est le premier, numéro un. Et en l'écoutant, je suis tombé sur les partisans blancs et ça m'a... J'ai trouvé ça un air magnifique.
L'air est splendide. Moi, personnellement, je n'aime pas beaucoup interpréter comme on le fait là. Parce que il faut dire que Paul Robert a mis l'orchestration après qu'on ait enregistré et c'est quand même très très bas.
Ah mais c'est beau.
On l'a pris très très bas. Il nous a fait écouter le ton. Bon et puis il a fait le montage après. Mais c'est quand même très très bon.
Je sens
quand même
que ça.
Généralement un petit peu plus haut.
Et à plusieurs reprises, on a proposé à Monsieur de Beketch des nouvelles interprétations qui sur le plan musical étaient nettement préférables et qui ont été toutes refusées de façon. On revient à la question de base de Serge tout à l'heure, qui était la devise du Chœur Montjoie. Eh bien Monsieur de Beketch, on va comme vous faire ce petit plaisir. Et on va la rappeler parce qu'elle est importante. En fait, il y en a deux. La première est « Rien n'est trop dur pour ceux qui nous écoutent ». Et ça, tu nous le prouves à chaque fois que tu repasses le générique. Et la seconde est « Un bon outil ne travaille jamais à sec ».
Troisième question, est-ce que vous avez prévu de passer un de ces 30 morceaux?
Oui, on va en passer un. Lequel voulez-vous qu'on passe?
Les partisans blancs.
Pour que les acheteurs...
Ce serait bien de le dire au réalisateur, ça lui fera plaisir, mais ça le flattera dans son égo.
De passer peut-être des chants inédits ou une nouvelle composition, soit le chant des martyrs de septembre, soit les 10 commandements des chants de Fougères, soit la mort de Stofflet, soit les chants.
Il faut peut-être donner les numéros plutôt.
Oui, peut-être le 6.
Voilà, on va écouter. Le 6, c'est lequel alors?
C'est le chant des martyrs de septembre.
D'accord. On va écouter ça avec un recueillement parce que là, on sort de la blagounette, ça devient sérieux.
Aucun me serment d'abattoir.
C'est étonnant quand on entend cette qualité-là par rapport à la première cassette. Quoi. C'est, oui. La première cassette, c'est une bande de copains qui avaient décidé de chanter des trucs pour se marrer ou pour faire passer un message ou pour se réunir. Et là, on sent qu'il y a une recherche presque de professionnalisme.
Bah, on a pris un peu plus d'habitude de chanter ensemble, même si les participants ne restent pas toujours très très longtemps, mais bon, c'est vrai qu'on a peut-être progressé dans l'unité chorale. Oui.
Qu'est-ce qui crée le lien justement, cette unité chorale?
Ce qui crée le lien, c'est cette soif de transmettre, de servir bénévolement. Et puis c'est l'amour de ce que nous chantons et c'est une certaine dévotion si vous voulez entre enfin que nous pouvons avoir pour la Sainte Vierge puisque nous sommes pèlerins et pour les saints, pour les héros des temps passés, des temps présents.
Oui. Tu crois que c'est un rôle formateur pour les gens qui écoutent. Est-ce que tu quand
oui c'est
quand,
très quand formateur
quand,
oui.
Quand le cœur chante, est-ce que vous avez ça en tête que vous apportez pas seulement le plaisir d'écouter de la musique, mais aussi une espèce de rappel d'un lien de tradition entre les Français, entre les catholiques, pas seulement les catholiques, les chrétiens, n'est-ce pas?
On va dire les chrétiens, oui, si ça t'ennuie pas.
Non, moi, personnellement, je suis pas contre.
Nonobstant, ce point de détail.
Nonobstant ma trahison, c'est ça que tu veux dire, mon passage.
Je n'ai rien dit.
Non, mais j'ai bien senti. J'ai vu friser ta moustache.
Bon, la route de Chartres, certes, est un lien, est un tronc commun, est un point où on se ressource tous les ans. Mais l'obligation, enfin la volonté que nous avons de pérenniser ces chants ou même éventuellement d'en créer tient au fait que le monde est vaste et qu'on entend en revanche qu'un seul son de cloche, donc afin d'essayer nous de maintenir une petite flamme, l'espérance, mon père. On est motivé, beaucoup plus motivé par le fait que nos enfants, nos petits-enfants bientôt auront quelque chose à se mettre sous la dent ou sous l'oreille.
Ou sous l'oreille plutôt.
Ou sous l'oreille.
Et Pierre Argouache, puisque vous êtes resté avec nous, vous voulez bien répondre à une question là en dehors de votre ministère. Oui. Est-ce que les enfants de Riomont écoutent
Oui, absolument. Et je trouve que tout le scoutisme a été alimenté par ces chants que Jacques a su insuffler justement sur les routes de Chartres. Mais au cours de nos camps qui vont démarrer dans quelques jours, des milliers de scouts vont reprendre les chants du chœur Montchassonnerie et qui sont des chants patriotiques et religieux, mais qui sont nouveaux. On avait tout un répertoire de chants anciens qu'ils ont su donner et redonner. Ça, c'est notre patrimoine. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils ont créé, ils ont des nouveaux chants qui nous arrivent et qui sont très très beaux et qui passent bien. On peut les apprendre. Ce sont des chants faciles qui sont très très musicaux et donc pour le scoutisme, on ne peut pas ressusciter le scoutisme sans ces chants. Ça c'est formidable. Et
moi, je veux dire quelque chose quand même. Je sais que ça plaira pas à Jacques, mais je m'en fiche parce que c'est pas lui qui commande, c'est moi. C'est quand même extraordinaire de penser que il y a 20 ans qui se consacrent à ça, au moins 20 ans, oui.
25
ans qui se consacrent à ça.
Oui, c'est sûr. Enfin, c'est quand même pas
mobilisé,
si vous voulez, très violent comme comme sacrifice hein, par rapport à ce que nous chantons.
C'est
quand même un militantisme assez agréable, hein, avec évidemment ces moments parfois un peu difficiles, parce que bien sûr tout le monde peut être fatigué par le travail. Et puis il faut maintenir, mais c'est quand même une joie immense, vous savez, de côtoyer beaucoup d'amis comme vous. Les membres du Chœur Montjoie Saint-Denis qui sont vraiment vraiment des amis très très chers. Et puis au-delà des membres du Chœur Montjoie Saint-Denis, de toutes les personnes qui participent à nos travaux, par exemple pour le livret, pour toutes sortes de petites tâches humbles. Et si vous voyez, tout ceci forme quand même un clan.
Il faut dire quand même que je crois que c'est la plus belle réalisation qu'a faite le chœur, non, ce dernier.
Oui, je pense. Oui.
Là, c'est magnifique. Oui, oui. La jaquette, c'est une couverture cartonnée superbe, avec des belles illustrations, de belles musiques, un bel enregistrement. C'est très très pro, hein, très professionnel, comme on dit.
Je crois que ce sont des chants de reconquête. Pour nous, pour le scoutisme qui est inspiré de la croisade, de par la fondation scout, par l'enseignement du Père Sevin, Sherwin Cornett, ce sont des chants de reconquête et des chants d'espérance pour nous.
Alors papier crayon, comme on m'a dit, là, voilà ce que je notais tout à l'heure, pour commander Vendée 92-96 au prix de 18 euros. L'adresse est Chœur Montjoie Saint-Denis, 21 rue Campagne Première, chez la mère agitée, 21 rue Campagne Première, 75014 Paris.
Alors l'avantage, c'est que quand vous allez acheter un disque, vous pouvez aussi déjeuner ou dîner chez la mère agitée, vous serez bien reçu si vous venez de Radio Courtoisie.
Si on se déplace là-bas, bien évidemment, voilà. Mais si on le fait par correspondance, actuellement les frais de port sont offerts.
De jambon,
quand on parle des frais de port, on ne parle pas du cochon que Chemin est allé prendre tout à l'heure.
Vous n'avez pas donné le prix du disque en parlant.
18 euros. Et donc à chaque fois maintenant, nous demandons à quelqu'un de préfacer l'œuvre, et comme nous l'avions demandé au Père Argouarche pour un disque précédent. Et là donc, c'est notre ami Jean-Romé Charbonneau, qui est vendéen, accepté de faire un très joli texte sur la Vendée, donc dans la période 1792-1796, et de montrer tout ce que ce sacrifice des Vendéens a pu épargner à la France. Et le disque se termine par une citation du cardinal Poupart, donc qui est actuellement à Rome, et que je vais vous lire. Une armée de paysans a su défendre la France contre elle-même pour sauver la liberté de la foi. Et certainement que nous devons beaucoup à ces armées vendéennes, à ces millions. On parle d'un demi-million de victimes dans ces guerres de Vendée.
Un message qu'on pourrait retenir aujourd'hui, ça.
Oui, oui, oui.
Parce que c'est vrai que ces paysans simples ont sauvé quelque chose ils ont préservé au moins quelque chose.
Oui.
Et quand on voit aujourd'hui la façon dont nos contemporains laissent filer et s'abandonnent à la déréliction et au désespoir devant l'état de la société, on peut peut-être les inviter à se retourner vers l'exemple de nos ancêtres chouans. Et ce disque peut y aider, dans la mesure où la musique et le chant sont, comme on dit maintenant, des objets de mémoire.
Est-ce qu'on peut l'écouter encore un peu?
Écouter. Oui, on peut écouter. Je vous propose La prière de Brigande, qui est d'Henri Bourgeois, chanson et croquis de la Grande Guerre, dont j'ai modifié légèrement la mélodie par ignorance. Voilà.
C'est bien.
Et si on a un peu plus populaire. De temps, nous pourrions aussi écouter une des compositions du colonel Dolly Linaudière, que nous avons connu grâce au Père Gouache, qui est d'origine vendéenne, qui vit beaucoup en Chine et qui a composé deux chants pour ce disque. Mais là, je vous propose d'écouter La prière de Brigand, qui est une très belle prière.
Numéro.
C'est le numéro 21.
Ce disque, il y a 31 chansons, c'est ça ?
Il y a 31 morceaux, oui.
Et alors, on peut se le procurer, on a dit, et rappelez-le.
Le cœur Montjoie Saint-Denis, chez la mère agitée, 21 rue Campagne Première, 75014, Paris.
18 euros, port compris.
18 euros actuellement.
Port offert.
Oui.
Il y a temps normal.
Et si vous allez le chercher, le port est en offert.
Mais dans les médias, il n'y a pas de 4 euros.
Une tranche de jambon chez la mère agitée.
Y aura-t-il un récital le mercredi 6 juillet ?
Non.
Et parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup aimé la merveilleuse fête de la musique chez la mère agitée.
Ah oui. Ouais, c'est très gentil.
Mais vous serez de toute façon. On vous verra où prochainement
On nous verra au Puy-en-Velay le 15 août.
Et pas à la rentrée
et on le verra le premier mercredi de septembre.
Voilà. Donc là, on pourra dire que vraiment les auditeurs sont les martyrs de septembre. Merci.
C'est très gentil.
La tradition.
Voilà. Au revoir.
Rien n'est trop dur pour tous ceux qui nous écoutent. Merci Philippe Tounaïev. Merci Jacques Arnoul.
Merci à vous.
On,
à tous.
On vous aime vraiment tendrement et de tout notre cœur. Et on va donner la conclusion au marquis qui va certainement nous dire un mot.
J'ai au moins le temps de dire bonsoir aux auditeurs.
Non, vous avez 3 minutes, votre majesté.
Ben alors, je sais pas, oui, pose-moi des questions.
Votre marquisa. Qu'est-ce que vous pensez du fait que les anciens du lycée La Mauricière d'Oran se réuniront le mardi 5 juillet à 18h au pied de la statue du maréchal Lyautey, place Denis Cochin derrière les Invalides?
Bon, je suis très content quand on rend des hommages au maréchal Lyautey.
Voilà.
Je peux donner l'adresse de la parfumerie où vous allez faire sa poudre de riz. C'est derrière l'église de la Trinité. Non. Si, si, c'est pas une blague.
Il faut être sérieux, il faut vous demander de résumer, de faire un digest de votre chronique dans le Libre Journal. Si la France était une monarchie.
Eh ben, il y aurait pas de. Ah, oui. Si la France était une monarchie, on serait bien en peine d'en trouver un à mettre sur le trône en ce moment. C'est ce que j'explique dans le Libre Journal.
Parce qu'il y en a... il faut lire la. Il faut. Je veux dire, moi qui suis.
Voilà, parlez à ma place, je préfère. Là.
Assez retenu sur ces questions-là, parce que j'aimerais bien qu'on ait un roi. Là, d'ailleurs, vous m'avez presque convaincu que si on en veut un, il va falloir qu'on le fabrique nous.
Eh ben voilà, c'est exactement ce que je voulais.
Parce qu'entre Loulou qui entre est Louis retenu fin. Momentanément, Jean qui est...
qui est le fils de son père, quand même. Bon.
Mais vous, même vous, le fils de Napoléon.
Bah oui, non, bah le prince Napoléon a fait la même chose que le feu comte de Paris. Il a déclassé son fils. Alors ça complique l'existence.
Alors Napoléon VI.
J'ai la solution. Je vais vous la proposer. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Moi, je crois que c'est le ce jeune homme très très brillant et extrêmement sympathique qui est venu nous voir à la journée du livre de Radio Courtoisie.
Charles-Philippe d'Orléans.
Charles-Philippe d'Orléans. Il est très bien.
Oui, il a un profil de médaille.
Il est combien dans l'ordre de la succession?
Loin, c'est un des neveux du comte de Paris.
Ben c'est bien dommage, il est très charmant, très viril.
Il est bien élevé.
Très bien élevé.
Je voudrais l'inviter pour qu'il nous explique ce qu'il fera le jour où il sera roi. Parce que forcément, les autres vont se bouffer le nez et on s'affiche. Et à force de s'entretuer, ça finira par
tomber. Bon courage.
Noblesse oblige.
Elle est très longue, très documentée, votre chronique qui s'appelle Trop de Duc tue le roi dans le Libre Journal. C'est le Libre Journal numéro 354. On peut donc se la procurer contre un carnet
trop de
timbre.
Non, mais franchement.
ou 5 euros.
Ah, voilà, on continue.
Ben non, mais c'est vraiment une très bonne chronique, très intéressante. Mais oui, moi aussi, ça m'a secoué, je connaissais rien. J'ai un petit peu appris, j'ai pas tout compris. Donc c'est 5 euros un carnet de timbre à SDB, 4 places 36, 75 euros 10 Paris.
Il était trop sco, il est devenu facho, maintenant il revient à 3 sco.
Voilà. Hein enfin, je suis dans la voie royale, j'essaye de les suivre pour essayer de comprendre ce qu'ils font. Mais...
Je salue le camarade Marc Cohen qui me disait ton problème, Goffman, ton problème, c'est pas que t'es devenu facho, c'est que t'es resté trotskiste.
Merci, chers auditeurs, merci au Père Argouache, merci à Jacques Arnoul et à Philippe Dounaïev qui nous ont attendus avec autant accompagnés avec autant de patience. Merci au Marquis. Merci Victoria. Merci à tous nos invités. Non pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours, si Dieu veut. Et puis après, ça sera les vacances et on pourra se reposer. Musique, s'il vous plaît. Nous avons.
Ah, ça y est, c'est déjà. J'ai pas entendu.
Que Dieu.
Pardon.
Articuler.
Musique, je disais. Et que Dieu vous garde, bien entendu.
Ici, Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris, sur 95 MHz, 6 à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, à Au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le Libre Journal de Serge de Beketch avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 29 juin de 18 à 21h, en différé jeudi 30, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30.